Bonjour et bienvenue dans Certains Lemas Show, l'émission qui défile avec les films à la sortie. Aujourd'hui, un débarquement de films, un escadron. C'est la prise des cinémas, avec une flopée de films. Parmi toutes les sorties, on a quand même 4 films français, et on parlera de 6 films au total. Au programme, nous avons...
Le sel des larmes.
L'aventure de Marguerite.
Divorce Club.
Felicita.
Exit.
Beloved. Avec moi cette semaine, son rire est une arme de destruction massive. Salut Yassa.
Salut. J'en ai marre. Vous parlez de mon rire et je ris, c'est pas normal. Qu'est-ce que vous m'avez fait? C'est pas possible.
Elle pleure de rire, nous avons les larmes, mais il nous faut aussi un peu de sel pour relever tout ça. Ellie.
Salut. Toujours là.
Toujours là. Et lui, il fait défiler les films, tels des militaires le 14 juillet, sur les champs. Notre ami Thierry.
C'est pas parce que la grande majorité des militaires sont chauves, parce qu'on leur demande de se raser la tête, que tu dois faire ce genre d'analogie. J'en ai marre.
Ah ouais, t'es chauve avec une barbe, tu seras notre légionnaire. Ouais.
Le film avec Van Damme, s'il te plaît, le film avec Van Damme.
Et avec nous, en plus de l'équipe, nous aurons une invitée. Bon, c'est pas vraiment une surprise parce qu'elle était déjà venue il y a 15 jours et donc elle vient pour la deuxième partie du film qu'on a vu avec elle. C'est Gab du podcast de 4 à 7. Coucou.
Hello.
On te retrouve à la fin de l'émission en fait.
Oui, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Ça commence maintenant.
Ce qui préoccupait Luc à cette époque, c'est qu'il n'était pas sûr que l'amour existe.
On peut se revoir ?
Je sais pas.
Car ce qu'il avait connu avec Jamila comme ce qu'il avait connu avec Geneviève...
T'es tellement belle.
Il ne pouvait, après coup, nommer cela l'amour.
Vous aimeriez qu'on se marie?
Bah oui, bien sûr. Hein. Mais c'est à lui qu'il faut le demander. Hein. Si ça tenait qu'à moi.
Non. Cela n'avait pas dépassé ses ambitions, ni atteint l'importance de l'amitié qu'il portait à son père.
Là, tu as Cassiopée, hein.
Le père avait une âme de poète et son fils l'admirait. Mais un jour, Luc allait trouver devant lui... une femme qui lui apparaîtrait comme son égale. Voilà comme les choses arrivèrent.
Oui, c'est toujours intéressant à voir.
Oui, toute œuvre est intéressante à voir. Oui.
Et c'est toujours intéressant d'emmener Thomas voir ce genre de film. C'est assez agréable.
Parmi les sorties de ce 14 juillet, beaucoup de sorties françaises. Et notamment Le sel des larmes de Philippe Garrel. L'histoire de Luc, joué par Logan Artufuermo, qui se cherche un peu, qui découvre l'amour mais qui n'est pas vraiment amoureux, jusqu'à ce qu'il trouve l'amour vraiment. Mais est-ce vraiment l'amour? Je ne sais pas. Oui, non, peut-être.
Tu te rappelles le film qu'avait réalisé Louis Garrel l'année dernière ou il y a 2 ans? Ben voilà.
Alors là, la différence, c'est que là, c'est quand même un homme modeste puisqu'il vient de la province.
Non, mais c'est juste pour dire que c'est une obsession familiale, visiblement, l'amour, quoi.
C'est ça, et il vient à Paris pour rentrer dans une école d'ébéniste. Donc c'est un manuel, tu vois. Un film qui fait très nouvelle vague. Oh oui, en même temps Philippe Garrel.
Oui, bon voilà, hein, pas trop de surprises on va dire. Le mec, on est en 2020, il filme toujours comme si on était dans les années 60. Mais bon, c'est son style quoi. C'est clivant, on va dire.
Avec nous, celui qui regardait des films de la nouvelle vague et non pas des films Disney quand il était petit, Ellie.
Et bah, bonjour, et voilà, ça fait... très bizarre de voir ça avec vous là, c'est une séance assez particulière. On avait Thomas qui était à côté de moi qui était de s'effondrer, Thierry qui soufflait toutes les 10 minutes dès qu'il y avait une voix off, et il y avait Marwan qui rigolait dès qu'il y avait des blagues un petit peu rigolotes, et voilà. Et moi j'étais au milieu de tout ça et je me baladais avec les images.
Alors les blagues rigolotes, je crois qu'elles n'étaient pas volontaires. Marwan, celui qui rit pour les vannes rigolotes, c'était quoi les vannes?
Non, c'était des...
Non, il y en a une vraiment, t'as pouffé quoi, c'est... entendez que toi.
Là, c'est des phrases qui n'ont pas pour but de faire rire, mais qui le sont.
Ouais.
Après, le plus drôle, c'était la scène d'affrontement entre les motards à la sortie de la boîte de nuit. Et on avait l'impression d'être dans Hélène et les garçons. Donc voilà. Non, mais c'est particulier. C'est tout un style qui est clivant, comme a pu le dire Ellie, et qui a pu te déranger, toi, Thomas.
Et Thierry également.
Mais moi j'ai bien aimé, hein, je veux dire, regarde-toi comme ça, je veux dire, t'es là, t'as, en plus t'as Ellie qui a quasi juste avant que je soufflais toutes les 10 minutes, donc il s'est dit « Ah, j'ai un allié, je vais lui tendre le micro là ».
Alors franchement je vous laisse parler sur ce film.
Non, en fait le souci c'est que j'ai bien aimé la manière dont il filmait les choses, et j'ai bien aimé la manière dont il voulait les raconter. Le problème, c'est ce qu'il veut raconter, j'en avais rien à foutre en fait. En fait, le problème, c'est que ce film a déjà été raconté plein de fois, probablement par lui, hein, si c'est son style, et probablement par tous ses copains. Je vois pas l'intérêt de nous avoir raconté ça, si ce n'est d'avoir encore coché les mêmes cases, des mêmes clichés, de tout ce qu'on peut détester dans ce qu'on nomme péjorativement, et ça m'agace, les films français. Et les moments où je soufflais, oui, c'est parce qu'il y avait une voix off qui racontait la scène telle que t'allais la voir, genre « Luc s'apprête à aller à l'école boule ». Et là, tu vois un plan, il marche, il rentre dans l'école boule, chef, c'est bon, quoi. Après, quand il y avait la voix off qui racontait des trucs du genre « Il appelle régulièrement son père, il se parle pas de ça ». Et si ça, c'est intéressant parce que ça te raconte des choses que tu ne vois pas, certes, mais alors il a là, s'enfermer dans la salle de bain, tu vois, non mais sérieusement, quoi.
Il y a une phrase qui a beaucoup de sens et qui devrait te plaire, en plus.
Oui, il y a une phrase après, oui.
Thierry, il aurait dû jubiler à la fin de cette phrase.
Ah oui, non, mais
ah bah là, vous spoilez la fin. Alors, déjà que c'est pas intéressant, c'est en plus vous spoilez la fin.
On dit juste qu'il croit pas en Dieu, on dit pas ce qui se passe. Pourquoi il ne croit pas en Dieu?
C'est un passage merveilleux, ça, on est d'accord. C'est le passage où je me suis senti très empathique. J'ai dit, s'il m'avait dit ça avant, je me serais senti bien vivant dans tout le film. Je l'aurais soutenu dans tout. Chaque fois que c'était un connard, je l'aurais soutenu à fond, quoi. Mais... Non, mais ouais, voilà, enfin, moi, c'est ça qui m'a agacé. Et puis surtout, il y avait quand même certains clichés. Il y a un moment où même toi, Ellie, hein, quand Geneviève a dit une certaine révélation, on s'est regardé, on a fait non, sérieusement, quoi.
On le sent venir gros comme une maison, enfin, c'est... Tout dans la scène le laisse supposer, et tu te dis, il va quand même pas le faire. Enfin, à un moment, on connaît très très bien tout ce cliché, c'est éculé depuis des années, et bon, bah, il tombe dedans. Après, comme tu dis Thierry, c'est que c'est...
On peut y aller. Le cliché de la femme enceinte. Ouais, voilà.
Le cliché du mec un peu donjon qui finit par mettre la femme enceinte et qui est pas prêt à assumer, quoi. Sauf que on sait très bien qu'elle va le dire. Enfin, elle arrive devant lui en disant, j'ai un truc à te dire. Alors qu'on sait très bien qu'il doit partir le soir même, et on se dit, bon... Ça sent pas bon. Et là, ça dure, on peut s'y laisser un petit peu durer le suspense, mais y a pas trop de surprise, quoi. Puis elle lui fait, je suis enceinte. Mais ce qui est drôle, c'est la réaction du gars, du coup, parce que... de quoi? C'est vraiment... Y a un petit décalage, mais comme disait Thierry, c'est vrai que c'est une histoire qui est, au final, pas très originale. Ça coche vraiment toutes les cases du film français, même peut-être du film un peu de bourgeois intello français, genre on s'intéresse des problèmes de cœur alors qu'il y a peut-être plus important. Mais je sais pas, moi je trouve que Philippe Garrel a une force dans sa mise en scène pour créer une atmosphère et s'attacher aux sentiments de ses personnages que peu de cinéastes arrivent à avoir dans ce registre-là, je pense. Et j'ai pas vu énormément de ses films, mais à chaque fois qu'il doit essayer de parler de l'emprise amoureuse, de ce sentiment de passion qui anime des cœurs, bah, il le fait vraiment avec beaucoup de sincérité et il touche juste. Donc je pense que c'est peut-être ça qui fait au final la force du film, selon moi. Et voilà. Et après, pour la voix, je suis d'accord avec Thierry, des fois c'est un peu trop, mais je pense que c'est juste qu'il veut raconter ça de manière assez... comme une fable, en fait. C'est comme s'il racontait une fable ou un petit conte avec une morale qui se développe petit à petit, et ce qui peut justifier ça. Après, je suis d'accord que c'est un peu lourdingue par moments...
Pour le coup, je suis d'accord avec le conte, parce que j'ai l'impression qu'il souhaite parler du rapport de l'homme avec l'amour, enfin de ce qu'il connaît de ça, et cette idée que tout le long, bah, il se veut comme victime, alors qu'il est le méchant de l'histoire, le bourreau, voilà, totalement. C'est ça, le bourreau des cœurs, le bourreau, celui qui va assommer ses conquêtes. Je dois aller voir ailleurs. Et ce que je n'ai pas forcément apprécié, c'est son côté maladroit, son côté case à cocher de ce que peut être un film de la nouvelle vague. Donc c'est que ce soit par rapport à son noir et blanc qui est très très beau, mais qui est, on a l'impression, plus dans le style que dans l'utilité de la chose, et dans la voix off et dans ses personnages. C'est mon point de vue, et dans des dialogues qui, je trouve, sont datés mais qui peuvent fonctionner. Mais ce qui est impressionnant et ce que j'ai énormément adoré dans ce film, c'est la manière de filmer la passion, les amours. Il a quand même un compas dans l'œil pour ses plans. Il y a souvent des idées de composition et de plans vraiment incroyables. Et j'ai commencé à rentrer dans son film vraiment qu'à partir de la scène de la danse. J'explique. Dès lors qu'il rencontre Betty, il y a un truc qui se passe et qui est assez fou, c'est que j'ai l'impression qu'au départ, je laisserai après la parole, mais j'ai l'impression qu'au départ il y a une sorte de lenteur dans le film, une sorte de un manque de rythme, on sait pas trop où il veut aller, on est un peu paumé, on se dit putain qu'est-ce qui se passe, et dès qu'on comprend toute l'ampleur du film, Et dès qu'il est à l'aise dans son récit, bah, moi j'ai l'impression que pour chacun, il est plus facile d'entrer dans ce qu'il veut, voir, dans ce qu'il veut nous montrer. Quoi.
C'est que ça colle parfaitement au final au personnage aussi, c'est que le personnage pendant une heure, il est perdu, et justement c'est ce que dit la voix off, elle dit quand il a rencontré Betty, c'est la femme qui lui a fait comprendre qu'il pouvait être amoureux et vraiment lui-même être animé de la passion qui habitait toutes les filles à qui il a cassé le cœur juste avant. Et du coup, je pense aussi pour ça que d'un coup, le film, il prend une certaine vitalité et semble beaucoup plus lisse, parce que le personnage lui-même est convaincu de ce qu'il entreprend avec cette fille là et du coup je peux comprendre que du coup ce soit assez perturbant et pas forcément accessible, mais je pense que c'est pour le coup c'est assez volontaire.
Moi j'ai trouvé ça très super scolaire quoi. Alors il est fait jouer ses élèves du conservatoire, ça déjà, mais j'étais très 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 scolaire quoi. On avait tous les trucs. Alors là on va faire un film, alors pour faire un film on va bien poser la caméra, on va bien faire le truc et voilà, et puis le scénario, alors il y a une histoire d'amour hein, et puis bon alors là
après c'est vrai, même juste la scène d'ouverture j'ai trouvé assez désagréable au visionnage, cette lenteur, ce regard, en fait on a l'impression que c'est pour le coup ouais, des étudiants qui, après on sent qu'ils sont plus à l'aise, ils sont plus dans leur personnage, mais on a l'impression qu'ils découvrent leur personnage en même temps que nous, c'est compliqué parce que les plans n'aident pas à, on va dire, camoufler cette chose là les plans sont longs et c'est, j'adore les plans en général longs, tu vois, mais ça ne n'aide pas aux personnages qui doivent avoir la compétence de saisir tout le plan, d'avoir le talent nécessaire pour faire comprendre aux spectateurs que c'est eux les acteurs quoi. Et là c'est moins le cas et c'est plus difficile, mais il y a des choses qui sont intéressantes et pour autant vraiment, après moi j'adore les histoires de trio amoureux, moi je suis un grand fan de ça, et dès que c'est pour ça.
Là, c'est juste un prétexte, en fait.
C'est intéressant, au contraire. Là, pour le coup, ça parle d'amour, tu vois. De ce côté-là, c'est il accepte, il n'est pas... Parce qu'il lui aussi, il a été le bourreau des cœurs, tu vois. Et il dit pourquoi pas, parce que là, c'est lui qui est pris au piège. Et c'est intéressant, tu vois.
En fait, c'est ça, c'est que tout le long du film, on nous le montre en complet contrôle, en contrôle complet de toutes les filles avec qui il sort, avec qui il flirte. Et en fait, d'un coup... Bah, il est tellement amoureux de cette femme-là que bah, le rapport de force s'inverse. Il s'en rend pas spécialement compte parce qu'il est juste complètement amoureux. Et c'est au moment où il parle avec son père de ça qu'il va se dire en fait, pour une fois, j'avoue que c'est pas moi le boss en fait dans la relation. Je me fais avoir. Il devient un peu l'amant éconduit quoi. Au final, dans ce triangle amoureux, et ça le perturbe. Je pense que ça touche un peu son ego. Et c'est aussi là que bah, du coup le film devient encore plus intéressant, c'est qu'il y a cette espèce de morale qui commence vraiment à arriver sur lui. Cette espèce de retournement de situation, on va dire, qui est assez intéressant.
Voilà, mais en fait, pour conclure, c'est vraiment un film que j'ai trouvé inégal, mais qui est quand même force de proposition. Voilà.
Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on reste quand même sur un auteur français qui même si ça fait des années qu'il est là et qui. Peut-être qu'on peut dire qu'il tourne en rond au niveau de ses thématiques, parce que voilà, c'est ce qu'il anime, même son style. Moi, tu disais que c'est le noir et blanc, ça pourrait faire juste prétexte. Mais c'est juste qu'il filme, je crois qu'il a toujours filmé comme ça presque, ou très très peu en couleur. Moi aussi, ça coûte moins cher, voilà, c'est toujours dans. Mais tu vois, enfin, je pense que c'est vraiment lié juste à ce qu'il aime faire, à sa personnalité de manière générale. Il est comme ça et il changera pas. Et il arrive toujours encore à proposer du cinéma qui change, franchement, aujourd'hui. Bon, ça peut largement plaire comme déplaire, ou là nous, comme là nous on est assez mitigé au final, Marwan et moi c'est moi qui est assez poussé pour qu'on le voit, et voilà, au final je trouve ça le film intéressant mais sans avoir été transcendé dans la globalité. C'est assez imparfait, tu sens qu'il, bon, peut-être aussi il y a l'âge aussi qui rentre en jeu, à un moment il est plus tout jeune et
t'as raison Simone.
C'est ça, voilà, il y a des trucs qui sentent l'âge, mais après
non mais c'est ça, moi je pense que c'est un vieux scénar qui date des films de la nouvelle vague, d'où les prénoms, et qu'il les a ressortis aujourd'hui.
Aussi, hein.
Ils ont juste pas changé, ils ont pas pensé à changer les prénoms quoi.
En tout cas, je trouve qu'il donne du charme au film, cette espèce d'anachronisme constant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment cru pendant une heure que les gens n'allaient jamais utiliser de téléphone portable.
Ah, oui.
Parce que franchement, au début, ça se parle en lettres, ils écrivent sur les mains avec un stylo bic, et je me suis dit, il va vraiment faire un film sur une histoire d'amour, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on verrait aujourd'hui. Bon, normalement, il craque un peu, mais c'est quand même minimaliste. Je crois qu'il y a genre deux coups de téléphone dans le film. Et après, c'est que des gens qui s'écrivent, qui s'envoient des petits mots, machin, et je trouve ça a du charme, cette espèce de vision un peu anachronique de l'amour dans notre société, ouais.
Anachronique. C'est le mot du film, anachronique. Des larmes, mais ça manque de sel. Le sel des larmes de Philippe Garrel. Si vous êtes en manque de films de la nouvelle vague.
Si vous avez envie de voir quelque chose qui sort encore du paysage français habituel, même si ça fait très film français cliché, au final, c'est quand même quelque chose qu'on n'a plus trop l'habitude de voir et ça reste un auteur intéressant, je pense.
Si j'étais toi, je me méfierais de cette malle.
Elle est magique.
C'est quoi ce délire ?
Marguerite ? Quelle est cette tenue ?
Marguerite, tout va bien ?
Je m'appelle pas Marguerite, je m'appelle Margot !
Allez, capte !
Capte !
Nous sommes le 12 février 2020 et...
Margot, faut que tu te manies un peu, là !
C'était la seule robe ?
Ah ouais, ton envie de m'emmerder dépasse ta peur du ridicule.
Morgan !
Oh mon Dieu, ils ont gagné la guerre !
Tu viens du futur, tu dois avoir des informations sur la guerre ?
Le débarquement en Normandie ? La grande vadrouille ?
14 juillet, c'est un mardi, mais les films sortent quand même. Et Fête Nationale oblige une flopée de films français.
Patriotisme.
Enfin, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça.
Non, il y a ça.
Oui. Et comme dit la gamine à Alice Paul, mais pense au général de Gaulle. Vu que c'est le jour, voilà.
Le général. Une pensée pour lui. Mais tu ne crois pas si bien dire, puisque nous parlons de L'Aventure des Marguerites, de Pierre Corée, d'après la BD Le Temps des Marguerites, de Robin et Vincent Cuvelier. L'histoire de Margot et Marguerite. Marguerite vit pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942. Margot vit de nos jours. Et les deux jeunes filles vont, par le procédé d'une malle magique, inverser leur place. Et se retrouver projetés dans la période de l'autre. Et elles vont partir en quête d'un père disparu.
Ils ont utilisé le porte-loin dans Harry Potter. C'est une petite référence.
Ouais.
Un film comédie un peu aventure, mais bon, pas trop quand même. C'est de l'aventure à la française.
Ouais, c'est au début quoi. L'aventure, elle est au début.
Avec l'avion et l'évasion d'un camp, c'était au début ?
T'as trouvé ça aventureux, toi ?
C'est l'aventure à la française. J'ai dit à la française. Avec Lila Guenot dans le rôle de Margot et Marguerite. Oui, parce qu'elles se ressemblent, comme ça c'est plus facile d'inverser les rôles. Alice Paul et Clovis Cornillac.
Et Vladimir Yordanov. Il y a quand même un seul acteur dans ce film, il faut quand même le citer, excuse-moi quoi.
On le salue.
On salue le papa de notre compositeur, mais quand je dis que c'est un très bon acteur, je le pense, hein, vraiment. Et c'était d'ailleurs l'un des seuls qui m'a fait sourire dans le rôle du grand-père. Hein.
Oui, parce que les autres n'avaient pas le rôle du grand-père, du coup c'était facile de te faire sourire dans le rôle du grand-père. Alors c'est vrai que c'est la comédie familiale. C'est la comédie familiale de cette semaine de sortie, parce que les sorties sont sur deux jours cette semaine. On va pas s'attendre à un cinéma d'auteur particulier. C'est sûr, mais est-ce que ça peut passer pour la famille, aussi bien enfant que grand ?
Mais j'ai pu me rendre compte que derrière nous, ça riait pas mal. Mais en réalité, si on veut avoir de la qualité, ce sera pas ici. C'est-à-dire que c'est très 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 feignant, c'est écrit avec les pieds. La direction d'acteur est vraiment à la ramasse. Et bah, tu sens le poids de l'absence de direction d'acteur. Quand tu regardes la fille, parce qu'en général les enfants ont plus de mal, enfin c'est plus difficile de diriger des enfants, donc on voit à quel point ils sont mal dirigés, et en fait il n'y a aucune nuance, c'est soit la gamine qui parle toute doucement pour la personnage de 1942, et l'autre qui gueule non-stop et qui n'est jamais juste. Après je peux quand même dire que Clovis Cornillac joue Clovis Cornillac, mais non, moi je trouve qu'il joue Clovis Cornillac en gros, il n'est pas bon, il est pas mauvais, tu vois. Sinon, c'est vraiment feignant, c'est vraiment nul. On voit tout à venir. C'est dommage. On veut de l'inventivité au cinéma. On veut pas un truc qui a déjà été produit 20 fois. Et on veut pas quelque chose avec des acteurs qui sont mal dirigés. Après, oui, la photographie parfois sympathique. Il y a quelques plans vraiment qui pourraient être vraiment bien. Je pense à celui de l'éolienne, mais c'est des éoliennes. Mais voilà, je trouve ça dommage. Et puis, enfin, ça joue sur les stéréotypes sans vouloir être inventif. Le coup des nazis, c'est bon, on l'a vu 30 fois. On peut être plus drôle avec ce thème-là qui a été tellement abordé au cinéma. Donc voilà, non, c'est dommage. Mais ils savent qu'avec des acteurs comme Clovis Cornillac, comme Alice Paul, ils pourront ramener un public cible quoi, et c'est un public qui est assez on va dire important. Ça m'étonnerait pas que dans deux semaines on voit que ça fonctionne, même si la qualité est à en discuter quoi.
Je suis allée voir ce film en ne sachant pas du tout de quoi ça parlait. Ce qui fait que quand j'ai découvert cette petite intrigue de voyage et de changement de personnes, voyage temporel et tout, j'étais super hypée. J'étais là genre, ah ouais, c'est cool, on va voir un truc. Mais après, j'ai vite déchanté.
Bah, en même temps, je me souviens, tu disais, quand est-ce qu'il arrive le Docteur Who?
Elle avait les yeux qui criaient Princess Bride, hein, Yassa. Elle était là vraiment, qu'au moment où t'as vu la malle magique, qu'ils ont commencé à raconter des histoires, t'as Yassa qui s'est redressée sur son siège et qui a fait, oh. Et bah, ça a duré 30 secondes. Ouais. Et après, elle s'est rabattue.
C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai très très vite déchanté. Parce que y a tellement de choses qui vont pas dans ce film, ça joue mal, l'intrigue, c'est des choses qu'on a vues et revues, ça a été remâché des centaines et des centaines de fois. Et en fait, j'ai rigolé à certains moments, mais c'est pas si drôle, quoi. je me rendais compte que je rigolais parce que voilà, c'est par la force de l'habitude, je ris même quand c'est pas très drôle, quoi, parce que voilà.
C'est pour ça qu'elle est avec nous. C'est pour nous rassurer qu'on fait des blagues de merde.
Ah merde.
Tu vois, par exemple, on t'enregistrera sans que tu le saches, par exemple, tu le sais, pour Divorce Club, tu vois. De toute façon, on va voir si tu ris beaucoup alors que c'est pas drôle, tu vois. On va compter, ouais. Les rires de Yassa. Et en gros, maintenant, ça deviendra un indicateur pour les comédies françaises.
Le compteur Yassa.
Hey, c'est pas mal, ça. Non, mais pas pour couper que pour les comédies. Justement, tu pourras déterminer le thème du film selon le nombre de rires de Yassa. Je vais revenir un peu sur ce que vous disiez sur les comédiens. Moi, je suis pas vraiment d'accord. J'ai trouvé vraiment Clovis Cornillac était mais à la masse totale. Et ce mec-là, il peut potentiellement être bon, non, hein. Correct, oui. Et là, il n'était pas correct, quoi. Et puis Alice Paul aussi. Enfin, les deux se débrouillaient mal. Mais j'ai l'impression, c'est ce que disait Yassa, qu'il n'y avait pas de direction d'acteur tout court, en fait. Et oui, enfin, la blague sur les Allemands, c'est même pas tant le fait qu'ils repartent dans le temps. Moi, là où j'ai vraiment été effaré, donc on a une gamine qui part de 1942, qui se retrouve dans une malle qui est en 2019. Elle va en classe, le premier cours qu'elle fait, c'est un cours d'allemand. Alors, et du coup, vraiment, j'ai fait, vraiment, ils vont nous faire ça comme blague, parce qu'elle est en plein milieu de la guerre, et du coup, en 2019, il y a les Allemands. Et donc, du coup, 3 minutes après, ils ont gagné la guerre, parce qu'ils font un cours d'allemand. Oh, bordel. Enfin, en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est pato, quoi. C'est un humour qui est dépassé, qui n'a aucune inventivité, qu'on a déjà vu. J'ai eu l'impression de voir les aventures d'Abel Blancsec, mais avec cette fois-ci, avec la version des commentaires. C'est-à-dire quand Luc Besson se met à côté de ton oreille, il fait des P avec son bras, tu vois. C'est pas bien, quoi. Et puis c'est vrai que ça m'a fait penser au film de Todd Haynes qu'il avait fait avant. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Où il y avait pareil, deux enfants, et il y avait une partie en noir et blanc, une partie en couleur. Et le truc des merveilles, je sais pas quoi. Et ça m'a fait penser à ça, en fait. En pas réussi, quoi. Et je sais pas. Et puis le fait que tout le monde jouait mal et qu'en plus tout est centré sur des gamins, et quand les gamins jouent mal, c'est dur à suivre.
Je suis pas complètement d'accord avec le jeu d'acteur. Je trouve que non, au contraire, Alice Paul et Clovis Cornillac se démerdent. Je suis avec Marwan sur le coup. La petite, par contre, alors faire jouer les enfants, c'est dur. Alors certes, ça manque de nuances, mais les deux personnages sont distincts.
Ça fait tellement réac de dire tiens, la gamine de 2019, c'est vraiment une cungueularde qui arrête pas.
J'avais envie de la gifler, la gamine de 2019, oui.
Il y a un téléphone avec. En plus, un téléphone qui peut durer 3 jours.
Il a des méga batteries, je veux son téléphone.
Puis même si tu vas par là, qu'elle soit gueularde avec son beau-père parce qu'elle a une relation conflictuelle, d'accord, mais en fait, tout le temps, elle est avec son pote qui est censé être le gars qui justement peut potentiellement la contenir. Elle gueule, elle est tout le temps dans le conflit. En fait, c'est un trait de caractère, quoi. C'est pas tant l'actrice, c'est que c'est extrêmement mal écrit, en fait.
Et il y a surtout aussi, alors là où je vous rejoins par contre, autant moi j'ai bien aimé, je trouve que ça roule plutôt bien, c'est assez facile à voir. Il y a pas de moi j'ai pas été choqué par le jeu, enfin ça passe, quoi. Pour un truc familial, c'est le truc qui passe. Par contre, effectivement, le coup de nous ressortir les nazis, parce que la BD de ce qui me semblait, c'est que c'est tiré d'une BD, et en fait ça se passe, la période contemporaine c'est 2010, et la période du passé c'est 1910, c'est la belle époque. Alors du coup, pourquoi changer et mettre pendant la guerre, quoi, en fait? C'est la question que je me pose. Alors, je crois que c'est pour mettre de l'aventure, du romanesque, du truc, mais en fait, moi je trouve que c'est dommage, et au contraire, c'est certes, ça va nous mettre des scènes avec un camp de prisonniers et une scène en avion, quoi,
ridicule.
Mais voilà, quoi.
Et en plus de ça, elle pouvait malgré tout rencontrer Hemingway à la belle époque, quoi. Enfin, je vais te faire un parallèle qui est assez sympathique dans le côté, oui, en effet, ça mange pas de pain, ça fait de mal à personne, et c'est vrai que tu le vois, c'est pas non plus le truc où tu te dis c'est effarant de nullité. Raoul Taburin. Vous vous rappelez de Raoul Taburin? On a tous oublié Raoul Taburin. C'est ça, c'est une comédie, tu la vois, tu passes pas un mauvais moment, peut-être que les enfants vont apprécier. Mais ça n'a rien de fédérateur. On aura tous zappé et on se dira tous pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Moi j'ai envie de voir des comédies familiales comme ça qui justement vont marquer des trucs où tu te dis putain c'est génial, j'ai emmené mon gosse, il a rêvé, on s'est éclaté. Et moi j'ai envie de le remontrer encore, tu vois, j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de posséder l'œuvre. Et j'en ai marre de ces trucs qui sont passe-partout en fait et dont on se fout derrière.
Le truc c'est que on voit que c'est un film qui doit remplir un cahier des charges. C'est un film pâté qui doit remplir le cahier des charges. Et on le sent, c'est ce côté où tel personnage. En plus, là, ils veulent se sentir réveillés, en mode éveillé, en mode oui, le féminisme c'est bien, il faut l'écrire, il faut le faire sentir à travers des punchlines qu'ils vont les mettre dans leur bande-annonce pour montrer à quel point ils veulent faire sentir des lignes de dialogue totalement grossières et. Pour dire que oui, nous sommes des gens qui sont féministes et tout. Voilà, c'est un cahier des charges qui est totalement suivi à la lettre et qui est terne, en fait. Et c'est dommage, il n'y a aucune inventivité, il n'y a aucune c'est un film de studio, c'est pas un film de création, quoi. Donc, vas-y.
Non, mais les meilleurs films, les meilleures œuvres en général, qui sont réellement féministes et qui promeuvent ce mode de pensée, etc., ce sont celles qui ne le déclarent pas comme ça de but en blanc avec une phrase exactement, enfin qui... Il y a une certaine subtilité et qui t'amène quand même à réfléchir, oui, tu vois, c'est avec le recul, c'est pas tout de suite.
Excusez-moi, c'est pas aussi violent que le pouvoir de l'amitié dans Scooby-Doo la semaine dernière, quand même.
Après tu peux potentiellement, puis d'ailleurs tu vois, pourquoi ne pas aussi, enfin il y a aussi des œuvres qui sont militantes dans ce sens-là, mais parce que c'est le fond de leur film, donc là fais-le de manière plus vulgaire, plus agressive, parce que t'as besoin que le message passe. Et là c'est vrai que c'est rajouter de la lecture au-dessus et en plus te vendre le film là-dessus, donc et là oui non clairement c'était très malhonnête, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'était très malhonnête.
En tout cas, moi, je sais ce qui vous plaît comme comédie. Je vous y amène. Non, mais j'ai compris vos goûts. Je sais ce que vous voulez. Yeah. Il n'y a pas de souci.
Michael.
Est-ce que tu viens de Ben, mon mari ?
Ma femme m'a quitté pour son patron.
Bonjour.
Lors d'une réception, ils avaient gardé les micros branchés.
Oui.
Tout le monde l'a entendu se faire...
démonter.
Il y a toujours pire. Et Ben... C'est le pire.
T'as plus rien.
Ta vie, c'était ton couple. Et croisant mon expérience, tu vas perdre tous tes amis aussi.
Ne m'appelle plus, hein. C'est pas parce que t'es en train de sombrer que tu dois m'entraîner avec toi. Sois pas égoïste.
On va se consoler ensemble. Je m'ennuie dans ma grande baraque.
Dis-moi que t'as pas envie de vivre ici.
Même Nelson Mandela, il a divorcé. Le gars, il passe la moitié de sa vie dans les prisons sud-africaines. Il tient. Il passe 6 mois en couple. J'en peux plus, j'y arrive pas. Il divorce.
Il vous fallait du jaune, il vous fallait du bleu. Il vous fallait de la comédie, de la bonne comédie française, de la bonne comédie populaire, comme on les aime. Pas forcément pour les enfants. Alors là, pas de titre jaune sur fond bleu, titre blanc, mais avec des ballons bleus et jaunes sur l'affiche, hein, donc c'est un peu pareil.
Ouais, surtout un cabaret d'acteurs qui fait des gueules de cons sur l'affiche.
Aussi.
Dire même Dubosc qui tirait la tronche dans 10 jours sans maman sur l'affiche, c'était plus sobre que ça. Hein.
Divorce Club 2 et avec Michael Youn. Bon, dans un petit rôle secondaire, mais sympathique, dans le rôle de Thierry d'ailleurs, n'est-ce pas Thierry ?
Je suis ravi, je suis pleinement représenté et ravi.
Alors c'est vrai d'être marié à Claudia Tagbo.
J'adorerais être marié à Claudia Tagbo, elle est trop drôle cette nana, peut-être pas dans les conditions de ce Thierry-là. Mais...
Avec Arnaud Ducré dans le rôle de Ben qui divorce après avoir découvert que sa femme le trompait. Bon, elle couche avec son patron pendant une conférence et elle a laissé le micro ouvert. Donc du coup, toute la boîte l'a entendu. Du coup, tout le monde se fout de sa gueule. Il est mis au banc de la société. Il n'est plus rien, il est seul. Mais il retrouve son ami d'enfance, Patrick, joué par François-Xavier Demaison, qui l'accueille dans sa grande baraque et ensemble le voit de coloc. Ils vont fonder le Divorce Club pour accueillir tous les nouveaux célibataires, pour se remettre de ce traumatisme qui était le mariage.
Ouais, bon, c'est un bésodrome, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. On retrouve également au casting Audrey Fleurot, donc Michael Youn, on l'a dit, Ornella Fleury, Charlotte Gabrysch, Jarry, Frédéric Bell, Benjamin Biolay, Claudia Tagbo, Vincent Moscato et Caroline Anglade, qui sera le love interest. Et plein d'autres copains, la liste est très 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 longue. Comédie burlesque, comédie à rire. Quand il y a rire, on se tourne naturellement vers Yassa. Mais Yassa, j'avais l'impression que la machine était en panne, la machine à rire. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, je crois que c'est 2 films français dans la journée. C'est pas possible pour moi. Et Pourtant, je suis assez, assez cliente de l'humour de Michael Youn. J'aime bien ses délires. Sauf que là, ben, ça n'a pas pris. Et c'était que des vannes éculées, en fait. C'est, voilà, je m'y attendais. À chaque fois qu'une vanne sortait, je m'y attendais. Vraiment, dès qu'il y avait un disons, c'est pas vraiment ça, mais disons un setup payoff de vanne, et ben je savais ce que ça allait donner. Et du coup, ben voilà quoi. Je veux dire, même le moment où on découvre que la femme que convoite, enfin que fréquente, s'appelle comment, je sais plus.
Ben, joué par Arnaud Ducré. Ouais. Dis Arnaud Ducré, c'est bon. Ouais. On sait que ce sont les acteurs, c'est pas les persos. On les confond pas, c'est bon. On est au courant. C'est ça.
Donc même la fille qui fréquente, en fait. J'avais capté que ça allait avoir avec l'ex de François-Xavier de Maison. Et du coup, ben, c'était, la révélation n'était pas drôle. Les situations, elles sont tirées par les cheveux, mais c'est du tiré par les cheveux qui n'est pas drôle non plus. Enfin, je sais pas, j'ai pas adhéré au film. Vous avez ri plus que moi dans la salle, c'est fou quand même.
Ce qui est incroyable, ce qui est incroyable, alors moi je me tourne vers mes fins gourmets, normalement c'est pas pour vous ce genre de fast-food.
Ça l'est toujours pas hein, d'ailleurs. franchement, alors Marwan dira pas la même chose que moi parce que Marwan lui s'attendait à rien et du coup ça a rehaussé légèrement. Moi, Michael Youn, je pouvais en attendre quelque chose parce que bon, le gars est plutôt sympathique. Quand j'étais gamin, j'étais bercé au Morning Live, donc forcément on avait tous envie de courir à poil et d'emmerder les gens, c'était marrant.
D'ailleurs, j'étais surpris, il avait un caleçon.
Non, il le met, il chope le caleçon sur le bord de la piscine et il le met. En réalité, il était à voile possible. Bon, après, ouais. Enfin, bref. Voilà, Michael Youn, c'est ce genre de gars qui. Et là, j'ai l'impression qu'il s'est un peu reposé sur ses lauriers, il a un carnet d'adresse long comme le bras. Et c'est pour ça qu'il y a plein de copains, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font des trucs. Voilà, t'as Claudia Tagbo, t'as Frédéric Bell, t'as Vincent Dossagna, son copain du Morning Live, qui vient, qui fait un coucou. Il y a tous ces gens, il se dit de toute façon, je vais les avoir et les gens sont contents de les voir. C'est pour ça que McFly et Carlito, ils ont communiqué à mort dessus alors que tu les vois à peine. Mais Michael Youn, moi, je voulais y croire un petit peu parce que même si celui-là donnait pas envie, hein, clairement au niveau des affiches de la bande-annonce, mais moi, je croyais en Michael Youn parce que Fatal. Et Fatal, c'était un putain de film. Autant c'est un personnage sympathique, mais je pense que Michael Youn, c'est un gars, voilà, il peut créer des personnages et s'y tenir, mais des personnages qui sont là pour lui parce que lui, c'est apporter des comiques de situation, enfin, même si là, son personnage est pas drôle. Et après, il y a eu Vive la France. Et Vive la France, c'était vraiment de la grosse merde. Donc là, en fait, bah, Fatal était peut-être le coup de génie d'une fois parce que là on s'enfonce, quoi. On va en parler après, je vais laisser Marwan parler. Mais là, ce qui pose un problème, c'est tout ce que j'aimais bien dans Fatal, c'est-à-dire l'écriture de personnages. Les personnages sont tous mal écrits, et pas bons, et pas drôles. Marwan, à toi.
Blam, démerde-toi avec ça, allez. Démerde-toi avec ça.
Alors, comme disait Thierry, je ne m'attendais mais à rien, mais à rien du tout. Et au départ, c'était vraiment le cas, parce que pendant une heure dix, je ne riais quasiment pas, j'étais... J'attendais, je fais ok, ça je savais qu'il allait faire ça, je savais que le personnage il allait fonder son club. Même, je suis entièrement d'accord avec Yassa par rapport à Alex, tout est déjà prévisible, on connaît le film du début à la fin et en fait on s'attend dans ce genre de film à du gag qui fonctionne, à du gag bien écrit qui sert les personnages. Et après j'ai commencé à vraiment m'amuser, c'est dans les scènes qui étaient un peu au début, mais avec la stalkeuse, la personnage, la folle.
Frédéric Bell. Ouais.
Frédéric Bell. Et puis, quand ça commence un petit peu à partir en live dans les différentes relations, dans sa manière de vouloir. C'est un truc tellement éculé, cette idée d'avoir un secret, mais le coup du secret, moi j'en ai marre. Ouais, c'est le quiproquo et puis le secret surtout.
C'est une comédie française.
Oui, mais en fait, mais on peut utiliser ce principe-là, mais en étant drôle, en ayant une attention particulière à l'écriture et au personnage, comme disait Thierry. Mais voilà, après il y a quelques gags qui fonctionnaient quand même, celui avec les Muriens, tu vois, il y a des trucs tout cons. Mais c'est ça, c'est juste qu'il y a un gros problème dans ce film-là, c'est que ça balance les résolutions, mais genre comme quelqu'un qui ferait je sais pas, de la pétanque. Toutes les résolutions, elles se font, mais de façon tellement
tu penses à laquelle ?
Random. Je pense par exemple à la femme de Thierry, genre en gros, il fallait conclure, tu vois, et ça s'est fait, mais genre ça s'enchaînait à la
ça
con.
Ça dérange pas la limite.
Ah, mais moi ça m'embêtait, tu vois. Mais après voilà, mais j'ai ri vers la fin particulièrement, mais j'ai pu rire. Mais c'est pas un grand film, c'est... Oh non, mais là pour le coup je pense qu'on sera d'accord sur ce point là quoi.
C'est ouais non, puis ça se résout, mais c'est plus des idées de sketch qui se mettent dans le film et elles sont, en fait c'est, il y a une idée de gag et qui est utilisée, qui est parsemée à plusieurs points du film en fait. Peut-être que je trouve que les trucs qui marchent le mieux sont justement ceux qui ont été posés au début du film. On se fait un peu chier quand même, hein, faut dire ce qui est.
c'est lent à démarrer, c'est très prévisible. Et puis, de temps en temps, il y a des fulgurances sur des trucs qui ont été posés avant. Voilà, scène de restaurant. Oui, une scène de restaurant chouette, tiens donc. Et non, pareil, le truc avec Frédéric Bell, pareil, c'est une situation. C'est en fait, c'est pas tant la scène en elle-même où il y a Frédéric Bell, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est tout le développé du sketch qui est posé par petites touches dans le film à des moments où on s'y attend pas.
Jusqu'au décor, tu vois, par exemple, dans la maison, tu sens l'intention du décor, l'intention même des personnages secondaires, les parents, tu vois. Tout est fait pour faire rire, et c'est ça. Je pense qu'il a dû construire son film en sketch. Et puis voilà, il y en a qui ne fonctionnaient pas, il y en a qui fonctionnaient, et puis et c'est dommage. Et puis en plus, vous devez connaître le fait qu'il a été accusé de plagiat par rapport à l'écriture de ses films. Genre, il s'est inspiré d'autres films américains ou de sketchs.
Non, mais à ce niveau-là, je veux dire, c'est tellement des thématiques qui ont été faites et refaites et pompées jusqu'à l'os que, à ce moment-là, accusé de plagiat, ça veut plus rien dire, quoi.
Voilà, il y a ça à rigoler, pas comme dans le film. Voilà.
Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, le talent que propose Thierry par rapport à Fatal, je pense qu'il a toujours été un petit peu. En fait, est-ce que c'était vraiment de lui, quoi?
Mais tu vois, c'est là qu'il y a un gros souci aussi, c'est que du coup, là, tu parles de la stalkeuse, mais c'est un personnage ultra secondaire. Hein. La résolution de l'histoire de l'ami Thierry, là, avec Claudia Tagbo qui débarque en espèce de pyjama nounours. Enfin, oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Moi, je croyais qu'elle faisait partie de la fête.
Ouais. t'étais dit, oh putain, il y a quelqu'un qui va venir ambiancer. Et là, on voit Claudia Tagbo fait ah merde, non, c'est la femme de Thierry. Et c'est fantastique. Ce passage est génial. Le passage du restaurant, en effet, est cool, mais il est cool pourquoi? Parce que Biolay est marrant. Il fait un retourner qui est assez fun parce que Vincent de Sagna a une bonne gueule et que quand il est collé à lui, qu'il lui joue une musique romantique alors que le mec signe les papiers du divorce, c'est drôle. Et vous voyez pas où est le problème? C'est les personnages secondaires, tertiaires qui nous font rire et les personnages principaux, ça va pas. Le trio de base, Audrey Fleurot, François-Xavier de Maison, ça va, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien, mais son personnage est annexe. Et Arnaud Ducré, c'est une catastrophe. Arnaud Ducré, le mec, il est jamais juste et je le trouve dégueulasse. Je supporte pas cet acteur. Un jour, il fera peut-être un rôle qui me plaira, je le trouve toujours à côté de la plaque. Et là, dès qu'il doit jouer le mec bourré, exagéré, c'est pas crédible une seule seconde, bah, De Maison dans ce rôle-là aurait été bien meilleur d'ailleurs. Il sait jouer ça. Même Michael Youn dans ce rôle-là aurait été bien meilleur, merde. Et ouais, voilà. À partir du moment où on attend les gags des personnages secondaires qui vont apparaître qu'une fois tous les quarts d'heure, c'est qu'il y a un gros souci si le trio de tête n'arrive pas à nous tenir en haleine, quoi.
Par contre, je veux bien des bisous d'Audrey Fleurot.
Justement, parlons d'Audrey Fleurot. Parce que Thomas, cet après-midi, quand on était, c'est juste avant qu'on voit Catherine Fro passer, tu vois, pour vous resituer à peu près, vous voyez, vous rappelez à peu près.
Des Happy Few, c'est ça.
Voilà, donc c'est bon, maintenant vous voyez à peu près à quelle heure c'était, comme on a dit tout à l'heure.
Oui, parce que les gens connaissent évidemment le déroulé, le planning des stars à la minute près dans Paris, bien sûr.
Oui. Évidemment, évidemment. Catherine Fro fait le même trajet tous les jours et elle fait coucou à la même seconde. Tu nous as lu une anecdote en disant Thierry, ça va te plaire. Tu nous as lu une anecdote qui vient, enfin c'est pas une anecdote, c'était une révélation qui venait de l'interview de Michael Youn qui disait qu'il était très fier du personnage qu'il avait écrit pour Audrey Fleurot parce qu'il sentait qu'il avait écrit un personnage de femme forte, un personnage qui justement se laissait pas faire, qui montrait qu'il avait envie d'une liberté sexuelle, qu'il avait envie d'être libre et tout ça.
Elle faisait ce qu'elle veut, elle était libre sexuellement.
Voilà, c'est extrêmement mal écrit, mais pourquoi pas. Mais alors, du coup, dans ce cas, ça excuse les personnages secondaires, est-ce qu'on parle de Charlotte Gabry? Est-ce qu'on parle d'un personnage qui, sous prétexte qu'elle fait du MMA, c'est forcément un mecton, c'est forcément un gros bonhomme, c'est forcément une lesbienne, c'est forcément une végane? En fait, il a pris tout ce qu'il détestait, il l'a mis dans tous les trucs qui font rire, et c'est un seul et unique personnage. C'est la lesbienne un peu bourrue, la camionneuse, qui est forcément végane, qui fait du MMA, qui va te défoncer, qui supporte pas que tu la touches. C'est quoi ce cliché dégueulasse?
Elles sont pas toutes comme ça?
Voilà. Et le mec il se vante de bien écrire ses personnages féminins et il nous ponce ça. Ah, ça m'a tordu. Quand j'ai vu Charlotte Gabry, j'ai fait non, Charlotte, tu peux pas te limiter à ça. En plus, Charlotte Gabry est une personne fantastique, oui. Elle peut pas se limiter à ça. Merde quoi.
Je me dis, moi, heureusement que c'est elle qui porte ça, parce que qu'est-ce qu'on aurait pu avoir à la place? Qu'est-ce que. Bah, elle vient pour gueuler. Elle vient faire
gueuler. Même Tagbo, elle a à peu près la même scène que dans Tout Simplement Noir, c'est ça qui est drôle. Elle tabasse quelqu'un.
Elle tabasse tout le cinéma français.
C'est ça. Mais oui, même par rapport à elle, j'avais l'impression que dans sa première scène, comment ça s'appelle, celle qui fait le MMA?
Charlotte Gabry.
Ouais, donc cette actrice-là, j'ai l'impression qu'en gros, t'avais un peu un côté de Twitter, attaque contre Twitter, ce côté de vouloir s'insurger de tout et de rien. Tu sens que ouais, c'est un peu une attaque contre les gens qui sont sur Twitter.
En plus de ça, le personnage s'appelle Gisèle. Gisèle, dans le milieu des dominas, c'est très courant. Et en plus de ça, elle veut tout le temps le frapper. Oh là là, Eh ben alors, Michael, on n'est pas subtil. Qu'est-ce qui se passe? On a écrit des beaux personnages féminins.
Ah, c'est la sirène.
C'est bon.
En même temps, des clichés dans la comédie, ça accélère, ça facilite le personnage.
Je me souviendrai juste de la Ferrari, la pauvre Ferrari.
C'est pas un peu Loup de Wall Street, ça? Moi, je dis ça, je dis rien.
J'allais dire.
C'est pas la scène des Qualoud.
Tu l'as piqué désolé.
Divorce Club. Aïe. Bon, là, on était mardi. Ouais. Et ben demain, c'est mercredi. Il y a encore des sorties.
J'espère que ce sera mieux quand même.
Ce sera moins populaire.
C'est pas français. Ah si, il y a un film français au début.
Le matin.
Enfin, je veux dire, moi j'aime beaucoup les films français, c'est pas un souci. Mais vu qu'il y a ça, tu disais ça tout à l'heure.
Traumatisme.
Bon, déjà, Tommy, il faut que tu saches que maman et moi, on t'aime, d'accord? À une époque, maman et moi, on partageait un appartement avec Aurélien, bref. Un jour, maman et moi, on se lève, et là, on voit le petit bébé au milieu du salon, en train de pleurer, et aucune trace d'Aurélien. On n'a jamais eu de ses nouvelles. Et donc, le petit bébé, c'est toi.
Je suis morte de rire.
Oh là là, merde! Mais putain, avant, tu gobais tout!
T'es conscient que c'est quand même hyper spécial comme humour?
Ça va, et je rigole.
Bon, Felicita, un film français, bon, fallait encore un, il y en a beaucoup, je trouve.
Non.
Et puis avec les fleurs.
Bon, là, refait plus joyeux, plus on a aimé, ok, d'accord, plus la bonne critique, le truc enjoué, tu repars de là-bas, on l'a refait. Et tu recommences.
Ah, les blagues visuelles.
Felicita de Bruno Merle avec Rita Merle. Pio Marmaille et Camille Rutherford, une des comédies de cette semaine, du 14 et du 15 juillet. Une bouffée de bonheur dans les sorties.
Là, j'ai l'impression de voir une comédie, justement.
Qui dit comédie, dit non pas Marouane, dit Yassa.
Coucou.
Et comme il s'agit d'une comédie de qualité, ben voilà, on a remplacé Marouane par Ellie. Vous commencez à connaître la mécanique. Salut.
C'est clair que sur cet épisode, ça va vraiment devenir un truc mais canon, hein, tu vois, dans l'univers de claque là. Putain, dernièrement, Marouane, il a pas de bol. Hein.
Ah ben, c'est lui qui a pas pu se lever ce matin.
Tant pis pour lui.
Bon, qu'est-ce qu'il a raté, dites-moi.
Ben, il a raté un super film. Voilà. Il a raté un super film porté par des comédiens fantastiques, putain, parce qu'il faut le dire, quoi. C'est ni plus ni moins que vraiment l'archétype du feel good movie, quoi. Et du feel good movie qui ne propose rien d'autre, parce que les feel good movies peuvent te dire on va te faire un road trip, on va te faire un film de gangster feel good. Non, là vraiment il te dit je te fais un film sur le bonheur, sur une famille heureuse, sur des gens qui vivent un peu à l'arrache et compagnie. Ça m'a fait penser à Captain Fantastic, cette espèce d'éducation un peu hors norme pour une gamine, sauf que c'est avec des parents hyper présents. Tout est vu du point de vue de la petite, qui est hyper touchante, et tous ces personnages sont géniaux, quoi.
Oui, c'est l'histoire de Tommy, joué par Rita Merle, la fille du réel, qui vit avec ses parents qui font du homestaging, qui vivent un peu au jour le jour, dans la liberté, de manière un peu marginale, et dans la bonne humeur. Les parents sont même un peu bordants, ils font des blagues un peu douteuses aussi quand même.
C'est les Kim de Parasite en fait, mais sauf que là ça se passe bien.
C'est ça. Et ils font des blagues du style, bon en fait on t'a pas eu, on t'a adopté, ouais très drôle. Ah merde, comment tu l'as fait, voilà. Ils se font des mythos comme ça, tout ça, c'est joyeux. Et ça pourrait tourner mal à plusieurs moments, ben en fait non, tout va bien, mais pas que. Et on oscille pendant tout le film.
Ah ben c'est un peu ce que disait Thierry, c'est que le film ne propose rien de plus qu'un feel good, et justement il s'amuse des autres pistes qu'il pourrait explorer. Enfin, c'est un des premiers gags, c'est le fait qu'on se dise, à un moment ça peut partir en film de mafia, et c'est très fortement suggéré. C'est qu'en fait, on s'en fout. C'est pas du tout le propos du film, c'est juste une blague encore. Et il y a plusieurs fois ce genre de petit humour-là qui revient pour nous faire croire qu'à tout moment on peut basculer dans autre chose qu'une simple balade avec cette petite famille qui vit, comme vous disiez, au jour le jour. Et en fait, voilà, on est là, on profite, on s'amuse et c'est assez agréable, notamment parce que les trois comédiens sont vraiment très très bons dans leur rôle. Pio Marmaille, il est un peu dans un rôle qu'il connaît très très bien à force, c'est un rôle un petit peu fou, il fait un peu ce qu'il veut, il s'amuse, il en fait un peu des caisses, mais il est excellent dans ce registre. Et là, il y déroge pas, et c'est vraiment la petite qui, au final, touche le plus, parce qu'elle a vraiment cette espèce de regard sur ses parents un petit peu débraillés. Enfin, c'est vraiment des marginaux. Il y a même une allusion à Frix de Todd Browning, un moment qui illustre complètement ce qu'ils sont. Ces personnes qui vivent heureux, mais en partie parce qu'ils, justement, ils sont pas normaux, en fait. Ils sortent du cadre et du coup leur vie est faite d'aventures et de petits plaisirs. Et non, c'est un film assez touchant et plutôt beau. qui fait du bien, franchement. Bon, j'ai pas vu Divorce Club hier, moi, donc j'ai été épargné. Mais du coup, je suis quand même heureux d'avoir vu ça, ça fait du bien.
Disons qu'après Divorce Club, on l'apprécie d'autant plus, ce film-là. Il y a le papa qui dit qu'il faut... enfin, il y a un petit discours comme ça sur les choix qu'on peut faire... A ou B, droite, gauche, etc. Et en fait, le film fait le choix que ça se passe bien, que ce soit joyeux, que ce soit léger. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des situations vers lesquelles on est un petit... Moi, j'étais tendue hein, à un certain moment. J'étais là, mais qu'est-ce qui va se passer ? Non. Et puis, le soulagement de se rendre compte que finalement, ben, ça se passe bien, quoi. Et on sort de... Moi, je suis sortie de la salle... en me disant que ben, je pouvais finalement faire plein de choses et que ça se passerait bien, tu vois, de faire des choix et de se dire, ben voilà, ça ne peut que bien se passer. Ça donne un petit peu cette confiance en soi qui nous manque parfois, tu vois. Et c'est bien d'avoir un film comme ça qui peut rester en tant que piqûre de rappel que les choses peuvent être très différentes du carcan auquel on est habitué et pourtant bien se passer et en tirer du bonheur. Je suis très contente de l'avoir vu, surtout à 9h du matin, c'est génial.
Il y a un petit côté onirique aussi qui est assez sympathique. J'avais peur que ça part dans un côté un peu artsy qui pouvait être potentiellement une Matt Branley, ce que je reproche, et Ellie regarde-moi, à En Liberté de Pierre Salvadori. Voilà. Raison pour laquelle on en discutait tout à l'heure par rapport à Pio Marmaille, et qui m'a fait penser à Asphalt de Samuel Benchetrit, où il y a aussi la métaphore du cosmonaute qui se balade un petit peu dans cet univers-là. Bon, là, il cache une surprise, je vous la laisse. Mais j'ai beaucoup aimé ce côté, cette gamine qui, justement, est autant émerveillée par ses parents qu'apeurée par cette espèce de liberté totale, alors qu'elle est censée être à l'école, donc elle est dans un cadre de société qui lui rappelle qu'il faut aussi se normaliser un minimum. Et elle a son casque anti-bruit tout le temps qui lui fait avoir des apparitions du cosmonaute qui est aussi la personne totalement ostracisée qui est dans son monde avec son casque, qui n'entend rien et qui du coup est totalement fermée à l'extérieur. Et j'ai trouvé ça vraiment très brillant en fait.
Et c'est ça, c'est-à-dire que bon, là on est dans la joie, tout se passe bien, on est joyeux, mais c'est quand même, pour une petite fille, normalement c'est super flippant. Le fait de ne pas avoir de maison stable, elle, son rêve c'est juste d'être à l'heure pour le premier jour d'école. Et parce qu'avec des parents qui te font des mythos tous les 4 matins pour faire la blague, qui te font des trucs, enfin, c'est super toxique, c'est super traumatisant pour un gamin en fait.
Mais en même temps, je trouve que c'est peut-être aussi un comportement qui prépare assez bien à la vie, enfin, qui l'endurcit plus tôt que ce dont nous on a eu l'habitude, quoi. C'est-à-dire qu'on a pris le temps de grandir, on a été dans notre cocon, etc. Et justement, d'être confronté à des parents qui te font des mythos et qui disent « Ah ben non, t'aurais dû voir venir ça », ben en fait, ça la met tout de suite en éveil, ça la met tout de suite en... voilà, il faut faire attention, il faut se méfier, tout en gardant cette joie de vivre aussi. Hein.
Elle a 10 ans, quoi.
Ouais, je sais.
C'est en ça que ça me fait penser aussi à Captain Fantastic, justement, dans le côté éducation un petit peu hors norme. Mais en fait, on voit quand même des enfants heureux parce qu'ils ont quand même un cadre et ils sont surtout des parents qui savent pertinemment dans quoi ils les entraînent et qui vont les aimer doublement grâce à ça, en fait. Et c'est aussi en ça que c'est très beau. Voilà. Mais parce que dans Captain Fantastic, t'as ça, t'as les grands-parents qui sont des gens très établis et qui voudraient bien que les gamins aient une éducation qu'ils considèrent eux comme normale et ils vont se confronter à ça en se disant bah ouais, c'est deux méthodes qui en réalité peuvent faire leur preuve en fait à terme tant qu'on les fait bien.
C'est très difficile de parler d'un film qu'on a bien aimé. D'habitude, on aime bien trouver des défauts. Taper, là, ici, il se trouve que tout va bien. Pour une fois, un bémol, il y a ça.
Non, pas un bémol, au contraire. Au contraire, c'est une chose que j'ai extrêmement adorée, mais vraiment. C'est la façon de montrer, lorsqu'elle met son casque anti-bruit, il n'y a vraiment aucun bruit. Et on passe 30 secondes, une minute, avec que des images, zéro bruit. Et j'ai trouvé ça fascinant. Et j'étais plongée dedans, quoi. J'ai adoré voir ça. Ça m'a pas du tout sorti du film. Au contraire, ça m'a immergée encore plus dedans. Je trouvais ça génial.
D'ailleurs, le film s'ouvre sur ça, en fait, sur le fait qu'on est dans sa tête. On sait directement qu'on est avec elle parce qu'on est dans le casque anti-bruit. Et ses parents qui parlent, qui disent n'importe quoi. On sait pas de ce qu'ils racontent. Et on n'entend rien. Et on voit que c'est elle qui a ce casque-là. Et d'un coup, elle l'enlève et le film commence. On comprend qu'on va tout voir à travers ses yeux et à travers ses oreilles. Enfin, entendre à travers ses oreilles. Et c'est vrai que c'est assez intéressant et son personnage du coup est vraiment, enfin, a une belle évolution parce que ouais, au final tout ce qu'elle veut elle, c'est juste avoir une journée d'enfant normale, c'est-à-dire aller à la rentrée des classes comme tout enfant doit faire le 1er septembre quoi. Et sauf que, enfin, c'est un peu l'enjeu du film, c'est limite réussir à lui offrir un moment de normalité dans sa vie qui est complètement improbable et qui est faite de surprises. Et c'est ce qui rend vraiment tout. C'est assez ambivalent en fait. Elle est vraiment coincée entre deux mondes à chaque fois et c'était deux choix. Il y a un moment, c'est très très bien montré où elle est au milieu avec d'un côté son père, sa mère dans une voiture et on lui dit tu vas avec qui ? Et on se rend compte que bah, ce choix a un peu d'importance en fait finalement sur ce qui suit. Et voilà, c'est vraiment toute cette idée de construire sa vie au fur et à mesure qui est assez forte, qui porte bien le film jusqu'au bout. Même si je trouve personnellement la fin un peu peut-être trop facile. Alors la chute, c'est vraiment, on tombe un peu dans la niaiserie, mais en fait ça colle très très bien au délire, donc en fait on peut pas trop en vouloir, mais c'est que allez, c'est bon, c'est vraiment, il s'en fout à la fin, il est en mode bon allez, on va à fond quoi. C'est vraiment bon. Oh, c'est bon, on s'en fout, c'est pas de problème, c'est cool, voilà.
Mais justement, il n'y a pas de gras, je trouve. C'est un film d'une heure vingt, il n'y a pas de gras, mais il n'y a pas de creux non plus, et puis il n'y a pas de manque non plus. Il n'y a pas de manque, c'est très rythmé, parce que sur une heure vingt, on aurait pu imaginer qu'il manque des trucs, et en fait, non, pas du tout. Tout, c'est très bien équilibré. Moi, à un moment, j'ai pensé que j'allais me lasser de ce système, de cette mécanique de « je te raconte un mytho », mais en fait, c'est pas vrai.
Première demi-heure, on a peur que ça tourne en boucle. Moi aussi, je me suis dit parce que ouais, du coup, c'est rigolo, mais en même temps, ça désamorce absolument tout en fait. Et parce qu'il y a un moment, on se dit dès qu'il commence à parler quelque chose, il y a la scène qui commence à démarrer et on se dit bon, il y a quand même une forte probabilité que ça soit faux. Et même si la scène est plutôt bien menée, il y a notamment une scène de tension à un moment. Ça devient tellement grotesque que tu dis bon, ça serait enfin, j'imagine que ça va être désamorcé. Et c'est ce qui se passe. C'est ça que je suis d'accord. Mais au final, il sort un petit peu de ce cadre-là rapidement pour. Pour autre chose. Et heureusement, parce que je pense que le film tournerait en rond sinon.
Donc ouais, moi je trouve que c'est très bien équilibré et que justement il sait s'arrêter au moment où il faut s'arrêter.
Et aussi un des points forts et ce qui justement fait qu'il n'y a pas de manque ou quoi, c'est que ça se passe globalement sur une journée en fait. C'est qu'on a, l'heure qui apparaît pour rythmer le film, et ce qui fait que bah, c'est très complet pour une journée en fait. C'est une grosse journée et ça passe bien en 1h20. C'est pour ça qu'on s'ennuie pas et qu'on n'a même pas cette impression de trop non plus, donc ça passe bien.
C'est peut-être mon film préféré pour l'instant de la semaine, oui, clairement. Comme quoi, quand Marwan n'est pas là, les cinéphiles dansent.
Finir sur une note cynique.
Bah, toujours, je suis méchant, moi. Tu sais. Des fois, on n'a pas le choix. Marwan est là à chaque fois. Mais...
Il avait le choix de venir ce matin.
Il
préférait dormir un coup. On a que ce qu'on mérite. Hein.
On s'est tapé 2 mois de confinement, mais on en voulait encore un peu. Si vous vouliez du rab, il y a Exit en ce moment au Cénoche. Film danois de Rasmus Klosterbro. À mes souhaits, merci. Avec en rôle principal Christine Soderis, ou Sonderis. Enfin bon, bref, je ne parle pas le danois, donc je n'ai absolument pas la bonne prononciation. Exit, non VO, Cut Ahead. L'histoire d'une journaliste qui va faire un petit reportage sur des tunneliers, sur le creusement d'un tunnel dans le métro. Tout simplement, elle va même inspecter la foreuse, mais alors qu'elle est dans la foreuse, au niveau des lames, des têtes creuseuses, avec le caisson hyper bas, parce qu'on est sous la terre, c'est une grosse pression, un incendie se déclenche dans le tunnel et elle est coincée dans la foreuse avec 2 autres employés, Baram et Ivo. Et ils vont devoir collaborer ensemble pour survivre en attendant les secours. Avec moi, l'équipe au grand complet, les blessés et les secours en renfort. Marwan, qui vient nous secourir.
Bah, il fallait bien, parce que vous avez eu le malheur de voir Felicita. Il fallait que je vous sauve en allant voir Exit.
On lui dit toujours pas que c'était bien. Ou... Il va finir par s'en rendre compte. Hein. Notre journaliste de choc, il y a ça.
Hello.
Le manutentionnaire Thierry.
Pourquoi ?
Parce que...
D'accord, non, ça me va. Bon, je dis, y a pas de mal à être manutentionnaire et c'est bien. Je suis le manuel, moi je suis le technicien, tu vois.
Et le contremaître, Ellie.
Exactement, bonjour. L'immigré provincial même hein, pour l'épisode, hein, histoire d'avoir vraiment l'équipe au complet pour, comme dans le film.
Voilà, notre immigré provincial, c'est ça. Il est venu de manière illégale, il a passé le périph en loose day.
C'est clair que la Rochelle par rapport à l'Érythrée, c'est aussi le Dawa.
Il y a la mer, pareil, c'est ça. Est-ce que vous avez voulu vous évader de ce film ou au contraire, est-ce que vous avez été enfermé dans cette intrigue trônante, dans ce film de survie souterrain ?
C'est pas vraiment un film qui avait nos voyages, hein, donc non, on s'est pas évadé. Hein. Mais tu vois, et après on va discuter sérieusement. Mais tu vois, quand je te disais, je peux répondre techniquement. Moi j'ai vu Daylight. Quand t'as vu Daylight, tu sais un truc, hein, tu mets Stallone là-dedans, il fait tout péter, tout le monde est sauvé. Au bout d'un moment, si on met pas un gros bras dans ce genre d'équipe, qui a pas de cerveau mais qui a des gros bras, forcément ça se passe mal. Voilà, il y en a marre.
Alors, ça se passe peut-être en même temps que Daylight parce qu'il y a tout qui pète dans le tunnel, mais on le voit pas, on est dans les questions de sécurité.
Ils auraient quand même gardé la punchline de Daylight parce qu'il faut le voir en VF au moment où il fait t'as voulu nous tuer, saloperie de tunnel ? Eh ben moi je vais te faire péter ! Non, mais voilà, tu vois, je juste. Voilà, ce ne sera pas Marocco tout à l'heure, je vous rassure.
Dommage. Quelqu'un pour lever le niveau, s'il vous plaît.
Non, mais en vrai, c'est un film assez intéressant, je trouve, par son parti pris en termes de mise en scène. Parce que du coup, on suit une journaliste qui vient faire un reportage dans cette espèce de sur ce chantier avec cette tête coupeuse. Et du coup, tout est filmé comme un reportage, en fait, avec une caméra à épaule, globalement. Et aussi des plans un peu bizarres, comme une espèce de plan de caméra de surveillance, par moments, qui donne des angles un peu étranges. Et du coup, c'est très, très immersif. On est vraiment plongé au cœur de ce gouffre là dans lequel elle s'enfonce.
Et oui, ça a été tourné sur un vrai chantier d'ailleurs.
D'accord.
Ouais. Et oui, il n'y avait pas tant de budget que ça. Ça se ressent, hein, mais ça se vit bien. Et c'était sur un vrai chantier. Donc l'autorisation, c'est une vraie foreuse.
Okay. Bah ouais, c'est plutôt réussi du coup à ce niveau-là parce qu'on est vraiment plongé dans ce qui se passe. Avec en plus, enfin, je trouve que c'est intéressant le fait que ça prenne vraiment son temps. Mais la première partie pendant une demi-heure, c'est des gens qui, enfin, on la suit elle en train de regarder les gens, leur poser des questions, etc. On découvre un peu sa personnalité aussi, la manière dont elle l'entend mener son article, enfin, qui est un peu bizarre d'ailleurs, parce que bon, à un moment, elle abuse un petit peu du fait qu'un mec parle pas anglais pour, comme pour soutenir son propos à elle, alors que voilà, le mec comprend ouvertement pas ce qu'elle dit, quoi. Il lui dit, vous êtes pour une Europe, machin. Elle fait, le gars dit juste yes parce que c'est un étranger, quoi. Il comprend pas l'anglais.
Un journaliste qui voit la beauté de l'Europe dans ce tunnel alors que ouais. Les mecs sont juste là parce qu'ils ont besoin de bosser
besoin de thunes,
et qu'ils n'imaginent pas ça.
C'est ça, c'est juste des gens qui viennent d'un peu de tous les pays parce qu'on leur a dit bah là il y a des choix à se faire et elle leur pose des questions sur un truc soit ils s'en foutent, soit ils comprennent pas donc voilà, mais du coup on la voit un petit peu découvrir ce qui se passe jusqu'au moment où bah, ça part en vrille et là la caméra devient vraiment de plus en plus anxiogène, quoi. La caméra est très très proche d'elle et ça va plus la quitter avec des scènes très très fortes, notamment il y a une scène qui je pense a vraiment marqué tout le monde, celle de où il y a les tympans qui sont en train d'exploser, etc., avec un bruit très très sourd qui prend tout. C'est très très
un beau travail sur le son.
Ouais, gros design sonore là-dessus et c'est vraiment la scène est très réussie. Elle prend vraiment vraiment au trip pour le coup. Et après voilà, le film continue et se tient plutôt bien dans son ensemble jusqu'à, je trouve personnellement, une fin un peu décevante quand même, un peu trop facile et qui arrive souvent en avant que c'est il fallait finir comme ça alors que non, il aurait pu prendre plus de risques en fait et assumer son délire jusqu'au bout, je pense. Rasmus,
là je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que je pense qu'il a voulu en même temps faire une sorte de thèse sociale un peu politique, et que quand on pense à ça comme ça, bah, si on prend en compte la thèse sociale et la politique, bah la fin a vraiment beaucoup de sens, même si en fait moi je trouve que dans cette idée d'affrontement, tu vois, de fin, après ce qui a pu se passer, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Et je trouve ça en soi nul, même si le film sans sens, ce parti pris, je pense, qui est politique, est vraiment appréciable dans plein de mesures. Mais voilà, non, sinon c'est un film ouais, qui est assez impressionnant dans son rapport au réel, dans son rapport à la caméra, à la lumière. Il sait vraiment s'approprier d'un genre sans effets spéciaux. Oui, il utilise des GoPro, il utilise vraiment du matériel. Il se moque un peu de la qualité de la caméra. Il peut passer du numérique à de la péloche. Et l'idée, c'est vraiment de jouer sur l'expérience. Et il réussit ça, mais à merveille. Peut-être qu'il y a des longueurs, peut-être qu'il y a des personnages sont parfois, on va dire, il passe d'un comportement à un autre un peu trop brutalement, je trouve. Il y a des changements, des transitions, on va dire, d'état dans les personnages qui sont peut-être un peu trop brutaux. Même, ouais, c'est ça, brutaux. Mais c'est vraiment une très belle expérience en soi.
Disons que j'ai trouvé la mise en abîme du reportage au début assez intéressante. Et après, ça m'a un petit peu perdue parce que ça partait, enfin les angles de caméra partaient un petit peu dans tous les sens, ça bougeait trop. À un moment donné, il y a une coupure de courant, mais on se retrouve dans le noir complet alors qu'il se passe un truc hyper important. Et moi, ça m'a vraiment fait chier parce que je voulais voir ce qui se passait réellement. Je comprends que ce soit un parti pris du réalisateur qui fasse ça. Je vois l'intention qu'il avait en faisant ça, mais ça m'a emmerdé. Et le problème, c'est que ça a continué ensuite, quoi. C'est-à-dire qu'on était vraiment plongé dans le noir. Du coup, ça m'a sorti un petit peu du film parce que j'étais là, mais j'ai envie de voir en fait ce qui se passe. J'ai vraiment envie de voir, et c'était frustrant, quoi. Plus que la claustrophobie que peut susciter l'environnement dans lequel sont les personnages, qui est quand même vachement claustrophobe. Petit disclaimer pour les gens qui sont claustrophobes, n'allez pas voir ce film. Okay. Vous allez vous sentir mal, vraiment. Faut pas le voir. Mais du coup, en dehors de ça, c'est quand même un film qui nous garde quand même en haleine, quoi. Parce que disons que le titre vend un petit peu la fin, mais le cheminement en fait jusqu'à la délivrance, il est assez intense, quoi. Donc c'est quand même agréable, enfin agréable jusqu'à un certain point. Disons que voilà, on s'ennuie pas.
Thierry Boule, il en peut plus, il a dit une connerie, il veut se rattraper, il veut sortir de Stallone. Je commence par une blague, peu importe, c'est pas un souci. La dernière fois que j'ai vu une proposition danoise, si je me trompe pas, c'était The Guilty. Je crois pas avoir vu un film danois depuis. Et ils ont quand même un certain talent pour créer le huis clos et pour créer la plongée dans l'ambiance. Tous les personnages passent par différents stades. À commencer par l'hystérie par la survie, donc c'est tout à fait normal de commencer à prendre des choix déraisonnés parce qu'on se dit qu'il y a peut-être une chance de pouvoir sortir, de faire des choses, et heureusement qu'il y a d'autres personnes derrière pour dire c'est dangereux, on le fait pas, ça s'équilibre. Passer par l'agression aussi, donc la survie où on se dit peut-être qu'il faut que je survive seul parce que les autres vont être déboulés pour moi, donc il va falloir que je devienne agressif. Et c'est en ça que c'est très, très étrange par le côté fan footage et par le côté légèrement diégétique de la caméra, c'est que la caméra aussi, je trouve, passe par ces émotions-là. C'est d'ailleurs pour ça que quand les personnages tombent dans des affres de folie, au lieu de juste les voir péter leur câble avec une caméra qui est fixe dans un coin comme une caméra de surveillance ou autre, la caméra aussi devient très épileptique, très lunaire, très, très violente en fait dans ce qu'elle nous montre et dans la manière dont elle nous le montre, comme s'il y avait justement un caméraman qui lui aussi a pas envie de garder son calme, ce qui est tout à fait logique. En plus, si le mec il doit filmer ça, qu'est-ce que t'as envie de garder ta caméra à la main alors que tu pourrais filer un coup de main? Et sans ça que c'est intéressant, il y a un espèce de tout. Après, malgré tout, le film fait 1h24. Ouais. J'ai eu l'impression d'être enfermé beaucoup plus longtemps avec eux, en fait. Ouais. Ça m'a plus semblé 1h50, quoi, facile. Et il y a vraiment un moment où je me suis dit, bon, ça commence. Mais justement, c'était aussi parce que c'est réussi, parce que justement, on a la sensation d'enfermement et on a l'impression que ça fait des jours qu'on est avec eux à un moment. Et en ça, c'est à la fois quelque chose que je reproche parce que j'ai trouvé le temps long, et à la fois plutôt, si c'est dans l'intention, c'est réussi.
Oui, ça fait partie de ces films où c'est pénible, mais tu sais pas si c'est volontaire, parce que c'est ce que vivent les personnages et ce que tu ressens avec eux. Et c'est vrai que tu vas pas pour te détendre, vraiment. Enfin, tu vas pour vivre une expérience, en fait. C'est plus dans le sensationnel, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des longueurs, on essaie de t'impliquer les personnages avec leurs histoires. Bon, ça marche plus ou moins bien. Je trouve que ce qui est réussi, c'est ça, c'est l'immersion sensorielle du film. Même s'il y a des moments, après c'est vrai que dans les personnages en soi, il y a certaines longueurs sur un film d'1h20, ce qui est assez surprenant. Surtout qu'en fait, on sort de Felicita qui, c'est sur 1h20, est très efficace en fait, à un rythme très différent.
Ouais, non, mais le mot sensoriel que tu disais, c'est intéressant, c'est celui que j'aurais dit aussi quand Marwan parlait du fait qu'il change de caméra comme ça d'un moment à l'autre. C'est vraiment pour jouer vraiment sur cet aspect-là. Même toute la dernière partie devient, c'est limite charnel, on est vraiment mais proche des corps dans un petit tunnel. C'est très très bizarre et il filme vraiment ça avec d'une manière très très brute. On est vraiment enfermé avec eux et du coup, cette partie-là d'ailleurs pourrait sembler longue, mais je la trouve très très pertinente. Parce que du coup, il y a tout un jeu sur l'oxygène qui s'amenuise, etc. On vit vraiment genre une perte de vie en fait, le film perd du souffle, mais comme les personnages en fait, c'est logique. Après, je suis d'accord sur toute la partie de développement vers le milieu, oui, ça, ils racontent leur vie et c'est pas...
Ça me semble assez nécessaire ça en fait, parce que justement c'est le côté, le retour à l'humain, donc on parle de rien et de tout, histoire de se rappeler aussi qu'on peut communiquer et qu'on a envie, enfin, je pense que quand t'es enfermé avec des gens que tu connais pas, tu leur poses des questions, mais si ça t'intéresse pas, juste pour te dire ok, ils ont ça, donc allez, je les aime bien quoi.
Non mais puis ça doit poser les enjeux aussi, savoir pourquoi est-ce qu'ils se battent et qu'est-ce qui peut les motiver à se battre ou pas, bien sûr.
mais après, pas tant que ça, la survie tout court et le fait de pas avoir envie de crever là-dedans est déjà un motif suffisant, ouais, mais c'est bien de développer un peu.
Mais là, il y a des valeurs en plus. On te pose les valeurs de famille et d'argent qui viennent se rajouter à juste la survie. Donc ça peut éventuellement bouger, d'autant qu'on vient te parler d'Europe et que le réel aussi. Le réel, lui, ce tunnel-là, lui évoque l'Europe au même titre que la journaliste. Ça, du coup, ce côté, c'est un peu l'Europe, justement, la tour de Babel, avec les mecs au-dessus qui sont des pays nordiques ou occidentaux, et puis les mecs du sud qui bossent à la manœuvre, hein, ce genre de truc. Je ne l'ai pas trop ressorti, à part, effectivement, le travailleur clandestin, enfin, il n'est pas clandestin, il doit avoir ses papiers, mais le travailleur immigré qui vient aussi à la main-d'œuvre avec les autres. C'était juste saupoudré pour filer les enjeux, mais pas tant pour développer le message, j'ai l'impression. Donc je trouve que c'est moins équilibré que le travail survie sensoriel qu'on a voulu chercher.
Je pense aussi qu'il il aurait dû vraiment se concentrer sur ce côté sensoriel et pas forcément jouer sur... c'est ça, sur un, donner une sorte de sens politique qui pour moi ne sert à pas le propos. Et ouais, c'est ça qui est dommage, parce qu'à plusieurs moments, on se rend compte qu'en fait, ça alourdit le récit. C'est, au lieu de vraiment parler des personnages pour parler des personnages, on parle des personnages pour davantage les ancrer dans un environnement, dans une classe sociale, dans tout ça, en fait. Et ça, c'est dommage. On sent vraiment qu'il suit une sorte de dissertation. Mais c'est, alors qu'en soi, la forme est incroyable.
L'expérience suffit largement en elle-même, je pense. Et du coup, c'est pour ça que moi, la fin m'a un peu déçu, c'est que... La fin, bah, c'est une conclusion qui vient faire un peu écho à tous ces potentiellement à toutes ces considérations un peu politiques, etc. Et du coup, bah, elle vient presque un peu gâcher tout ce qu'on vient de vivre, je trouve. Alors que on finit vraiment, enfin, avant cet épilogue, on est vraiment sur quelque chose de très fort comme conclusion, je trouve, sur le plan du ressenti. Et c'était assez. Je sais si, enfin, moi, quand il y a un moment, l'écran devient noir, et je sais s'il finit là-dessus, c'est super couillu, enfin, c'est super cool même, j'étais très content. Du coup, non, mais il y avait vraiment ce côté très. Une vraie expérience de cinéma qui était proposée, et un petit peu avec bon, des fioritures, mais je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il. Bah, en fait, ça m'emmerde parce que j'ai pas envie de reprocher à quelqu'un d'avoir de l'ambition, parce que c'est. Enfin, je suis content que le mec ait envie d'en faire plus, mais. Ça fait un peu vraiment. Ouais, c'est pas très très maîtrisé pour le coup, enfin. Ça en dirait un petit peu, juste il a voulu rajouter ça parce que je sais pas, il trouvait ça intéressant lui, mais il a peut-être pas assez de fond personnel pour donner un discours pertinent, quoi, en plus de sa forme.
Un film courageux, un film couillu. Aurez-vous le courage, vous aussi, d'aller vous enfermer avec Exit ? C'est une grosse semaine Cinoche. Il y a beaucoup de trucs. L'épisode va être long.
C'est out 1, l'épisode.
Est-ce que vous en reprendrez un petit peu pour la route ?
כשהייתי ילדה, איפה היית מוצאת את השקט הזה?
במים, כן.
מסתכלת על הבטן, אני רואה שהגוף שלך לא משהו. רוצה לשתף אותי קצת.
יא 15 ג'ור. On vous parlait de Chained de Yaron Chani qui sortait le 8 juillet et 15 juillet on est allé voir la deuxième partie Beloved
de Yaron Chani
alors deuxième partie d'un triptyque, il y aura le troisième Striped le 9 septembre. Donc Yaron Chani toujours dans sa quête de réalisme, d'observation des faits. On nous avait promis avec Chained et Beloved les deux faces d'une relation amoureuse. L'une suivrait Rashi, l'homme, le mari possessif qui tient absolument, enfin qui aime beaucoup sa femme, mais qui veut la protéger, elle et sa fille, et qui veut un enfant absolument. Et sa femme, Rashi, Abigail. C'est les notes, je me suis trompé. Oui, mais j'ai un micro et des notes dans la main. Écoutez, non, c'est pas facile.
T'inquiète pas, vu l'ego du gars, il est marié avec lui-même, hein, vu qu'elle n'existe pas, de toute façon, dans cette histoire.
Pour le réalisateur non plus, elle n'existe pas, visiblement, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, on allait voir Beloved en se disant, bon, ben, Beloved, c'est la partie Abigail, on va voir sa face de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe quand Rashi n'est pas là ? Parce que dans le premier, elle s'est émancipée, mais hors cadre. Donc on se dit, on va voir son émancipation sous la caméra. On va plus suivre le point de vue de sa sage-femme qui va l'aider justement dans son parcours, et la sœur de la sage-femme qui elle aussi a un parcours difficile, une relation au père
dont nous parlerons.
Père qui est à l'EHPAD ou travaille, Abigail, la boucle est bouclée.
On est plus nombreux que la dernière fois, dis donc. On a l'équipe de la semaine au grand complet. Thierry, Yassa, Marwan, Ellie et celle qui a parlé avec nous du premier volet, Gab, du podcast de 4 à 7. Salut.
Salut.
Remise du premier film.
Oui, et je suis contente d'être là pour reparler du deuxième film, du coup.
Formidable. Alors, qui veut commencer sur celui-là? Ah, vous pressez pas, hein. Alors, est-ce qu'on a le droit de spoiler cette fois-ci?
Est-ce qu'on a vraiment besoin de spoiler alors que... En fait, je pense même pas qu'on ait besoin, au final.
Dans celui-ci, il n'y a rien à spoiler, en soi.
Non, celui-là, non. Mais genre, même par rapport au premier film, le twist, on va dire, la fin du premier, on n'a même pas besoin tellement de la spoiler. Parce que...
En réalité, on croyait que les deux seraient très, très, très connectés. Et en réalité, pas tant que ça.
Les deux films sont connectés globalement dans la première demi-heure. On va voir pas mal de points de ralliement, on va revoir des scènes entre Rachi et la petite fille d'Abigail, on va revoir leur dispute, ça permet de faire le lien entre les deux premiers films, entre les deux films pour ceux qui n'auraient pas forcément vu le premier, comprendre un peu la nature de la relation de cette famille reconstituée, et de voir comment Rachi est très possessif et comment Abigail essaie de gérer sa vie à côté et sa relation avec sa fille. Donc on va voir ça, on va voir un petit peu plus le métier d'Abigail, on va un petit peu plus découvrir. Mais passé la première demi-heure, en fait, y a toute la relation avec Yael et donc la sage-femme et d'autres personnes qui se met en place. Et peu à peu, en fait, on délaisse Abigail pour se concentrer sur Yael et sa sœur qui sont aussi, des vies assez compliquées, on va dire. L'une essaye de devenir maman, enfin d'adopter un enfant ou de devenir famille d'accueil d'un enfant. Et l'autre vit très très mal l'hospitalisation de son père et fait du lap dance, etc. Et elle se prostitue plus ou moins. Enfin, on comprend qu'elle se prostitue plus le film avance. Et donc on a vraiment deux mondes différents. Et au final, cette deuxième partie qui on pensait être un gros miroir de la première devient plus une sorte d'œuvre générale sur l'émancipation de la femme et sur la condition de la femme en fait. En Israël, et même pas qu'en Israël, en fait, c'est une situation assez générale, ça peut arriver à plein de. Dans tous les pays. Et donc c'est assez, assez perturbant, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et même si au final on en apprend pas mal plus sur Abigail, il y a des très belles scènes sur elle, avec la mise en scène qui la colle beaucoup, comme tout le week-end entre amis, avec tout un jeu sur ses cheveux, pour symboliser sa libération progressive, etc. Elle reste un personnage secondaire pour ce deuxième film, en fait. Ce qui est très très bizarre et. Voilà, assez déconcertant, même si le film, du coup, garde les mêmes qualités que le premier. Bien sûr, c'est très naturaliste, très immersive.
Marwan ?
J'ai également apprécié d'une certaine mesure le film par rapport au fait qu'il continue malgré tout à respecter sa forme et à réussir à capter le moment en ce qui concerne les disputes, les dialogues. Et particulièrement les scènes de chant, des moments, scènes de libération où les femmes se reposent et pratiquent des activités dans des lieux dans la nature. Elles chantent, comme si elles se libéraient de tout ça. Et il y a une scène qui m'a vraiment plu, donc c'est la scène de l'accouchement. Parce que l'air de rien, il y a un homme, mais il ne dit pas un seul mot. Le mari, il est muet du début, enfin il est muet, c'est ce côté où il a rejoint mais il ne dit aucun mot.
Oui, on l'entend pas en tout cas.
C'est ça ouais. Mais ouais, non, sinon c'est vraiment un film intéressant malgré le fait que j'ai l'impression qu'il s'est forcé à faire une introduction et je l'ai pas vraiment apprécié ce côté de ramener à Rachi et j'ai l'impression que c'est vraiment forcé, je me suis vraiment ennuyé, j'ai vraiment eu du mal à... Parce qu'en fait, c'est comme s'il voulait faire une remise en contexte, et je ne l'ai pas apprécié, je l'ai trouvé balourde.
C'est surtout que, ouais, comme tu disais, juste après, on a plus rattachement, on est complètement sur autre chose. Et en fait, je trouve que, pour le coup, le deuxième film change un peu dans la forme, je trouve. Et justement, le début du film qui ressemble beaucoup à Chained. Ça fait un peu bizarre pour la suite. Parce qu'il y a des plans beaucoup plus... je trouve beaucoup plus travaillés, beaucoup plus... J'ai trouvé la mise en scène plus intéressante. Et il y a vraiment des choix, des partis pris plus intéressants. Et dans le montage aussi, qui ne sont pas forcément dans Chained. Et alors du coup, avoir cette intro très naturaliste comme dans Chained, ça m'a fait un peu bizarre.
C'est ça, il y a énormément de symbolique, mais ça fait partie de l'émancipation. Comme on est dans un récit d'émancipation, alors pour Abigail, parce qu'elle est là, mais on va suivre plutôt sa thérapeute, en fait, celle qui va l'accompagner. Et Abigail est là, donc on va la suivre aussi, mais comme elle n'est pas là tout le temps, ben on ne la suit pas tout le temps, puis elle a sa part aussi, qu'on voit dans l'autre film. J'ai l'impression que c'est un film qui va compléter ce qu'on ne voyait pas dans le premier, mais qui n'est pas achevé pour autant. C'est-à-dire qu'il y a cette partie-là pour compléter, et les histoires des deux autres personnages sont incomplètes. Je pense notamment à l'histoire de la sœur, qu'on laisse en plan sur la fin.
Littéralement,
ça se finit sur l'histoire, mais au milieu, quoi. C'est, en fait, elle fait une rencontre, et enfin, bref, on ne va pas tout raconter, mais son développement, j'ai l'impression qu'il n'est pas terminé, qu'il est laissé à l'interprétation, alors ou alors peut-être pour le troisième. Qui sait. Mais du coup, ça, autant le premier était indépendant, on pouvait voir Chain tout seul, il n'y a pas de soucis. Autant là, Beloved, on a besoin du premier et on a besoin d'un troisième pour comprendre ce qui se passe parce qu'on est sur sa fin, on ne peut pas le voir. J'ai pas l'impression que tout seul, il suffise. Ou alors, il manque des trucs. Il y a quelque chose, hein, la scène de l'accouchement, je pense que ça peut suffire, mais dans ce cas-là, ça aurait fait un autre film. Enfin, je trouve que c'est boiteux un peu comme concept, c'est pas complet, quoi.
Après, on a l'impression qu'il a tourné énormément, énormément. Il s'est installé, il a regardé les rushs et puis il s'est dit, bah, tiens, comment je vais faire ?
C'est exactement ce qu'on disait à la présentation. Ah, c'est ouais. Qu'il a voulu faire un film et puis il avait tellement de matière qu'il en a fait trois.
Ce qu'on sent qu'il a paniqué devant sa table de montage, en fait. Enfin, parce que, comme disait Gab, le début du film, n'a rien. Enfin, il y a vraiment une fracture qui se passe au bout de 20 minutes de film et c'est pas normal, en fait. Et le montage, en effet, comme tu dis, devient beaucoup plus... libéré dans ce film-là que par rapport au premier, où il se permet plus de montages parallèles, des fois l'image est déconnectée du son, ce qu'on n'avait pas du tout, à part en deux flashbacks, je crois, dans Chained, très rapide. Là, on a vraiment des séquences entières où on entend la voix en off de Abigail qui raconte une histoire avec des images autres qu'on n'a pas forcément vues en fond. Il y a vraiment une forme qui se libère à l'image, de bien sûr, des personnages. Mais c'est vrai que on sent qu'il y a, c'est ça, l'agencement des idées, il y a les idées, mais leur agencement est un peu moins équilibré que dans le premier, en fait, pour le coup. Même si elles sont tout aussi intéressantes, c'est un peu dommage.
C'est assez inégal, moi, je trouve aussi. Bah, pour le coup, c'est con à dire, mais quand on pense au film, on pense directement à des scènes très fortes et on oublie plein d'autres. On sent qu'il a eu du mal à mettre en avant et à créer un rythme qui il a eu du mal à se réguler, à être efficace tout le long et puis à donner à son récit vraiment une importance nécessaire. Et il donne de l'importance, mais uniquement dans des scènes clés. C'est dommage. J'espère que dans son troisième film, il arrivera peut-être à donner une sorte de... J'espère, je suis l'espoir absolu, quoi.
On nous a quand même annoncé qu'initialement, le troisième volet, c'était du point de vue des voisins de Rachi et Abigail, que l'on ne voit qu'à la fin de Chained, et qui du coup donne un avis extérieur sur leur vision de ce couple-là. C'est comme ça que ça nous a été vendu. Ne me regarde pas comme ça. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est exactement comme ça qu'on nous l'a vendu. Donc...
Du coup, si...
c'est pas ce qu'ils disent. Hein. Non, c'est pas ce qu'ils disent. Même dans la petite description, ils disent vraiment c'est un couple de voisins qui observe le truc, en fait. Du coup, alors après, on risque d'être surpris comme là, et ça risque de raconter encore autre chose. Moi, j'ai été floué, en fait, dans ce film. Le problème, c'est que c'est ce que vous disiez avec les mises en contexte qui étaient très intrusives et qui étaient très... histoire de te rappeler à quel point il y a eu un film très violent en premier volet. Et avec, on va dire, le passage où Abigail s'en va et qu'elle a un appel de Rachi qui lui dit clairement « Attends, on n'a jamais établi que tu avais le droit de partir comme ça, tu te prends pour qui, tu reviens tout de suite, quoi, en gros. » Avec moi ce rappel-là, c'était pour moi une façon du réalisateur de me dire « On va revenir dans ce couple, en fait. » Donc du coup, j'étais là, pourquoi est-ce que tu essaies de me raconter autre chose ? Est-ce que je dois vraiment m'intéresser au personnage que tu me présentes, sachant que tu me dis constamment que tu vas me ramener à cette histoire-là ? Donc j'étais tout le temps dans cette espèce d'entre-deux en me disant « C'est Abigail qui est censé m'intéresser, il me le dit dès le début. » Et en réalité, tu me racontes autre chose, mais tu me rappelles bien qu'il y a Abigail dans le tas, et tu me remontes des scènes dont je suis au courant, quand elle se fait couper les cheveux, ce genre de choses. Et du coup, je ne savais jamais à qui m'intéresser, et j'ai eu du mal vraiment à savoir vers qui générer mon empathie. J'étais assez perdu, en fait.
Justement, les moments où on revoyait ou réentendait Rachi, je trouvais que ça montrait justement cette violence extrême, et en parallèle avec cette liberté totale, même à certains moments un peu cliché, je trouvais. Et ben je me disais qu'à la fin peut-être qu'il allait y avoir ce genre, vraiment cette dualité liberté et contrainte, et en fait pas du tout, alors que justement son appel, je trouve que là dans ce film là il y a que une partie de l'appel qu'on voyait dans Chained et qui paraît beaucoup plus violent maintenant qu'on sait ce qui s'est passé, et juste avec cet extrait là Et bah justement, c'est le moment où elles sont dans la nature, donc le plus libérées possible. Et du coup, je m'attendais à ce contraste qui n'a pas été.
Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu soulignes, c'est-à-dire qu'il a gardé les passages les plus violents, entre guillemets, parce qu'on est du point de vue féminin. Peut-être que ces passages-là sont perçus plus violents, alors que du côté masculin, il n'aurait peut-être pas été perçu aussi violent que ça. Notamment quand il empêche la fille de sortir avec son copain. Ça, on ne l'a pas vu, parce que pour le coup, là, il en vient aux mains.
Il en vient aux mains, et c'est vrai que... Après, c'est marrant la manière dont tu perçois tout à fait. C'est bon, peut-être parce que, comme je dis, on est aussi biaisé du fait de savoir ce qui s'est passé. Mmh. C'est pour ça qu'après, il faut en venir à Yassa qui n'a pas vu Chained. Ça va être intéressant. C'est vrai que quand tu vois, ne serait-ce que l'introduction, là, c'est vrai que Rachid n'a plus d'empathie pour lui, c'est fini quoi. T'as la scène avec le médecin, Abigail vient d'avoir sa fausse couche. Il laisse parler personne. Elle en parlera la parole, c'est ferme ta gueule, c'est moi qui décide.
Même le médecin ne peut pas parler.
Voilà, et je dis au médecin ce qu'il doit faire pour toi, parce que c'est moi qui décide. Et là, tu te prends ça dans la gueule et tu te fais. On l'avait vu plus ou moins en fait, mais c'est vrai qu'on l'avait pas forcément perçu tant comme tel. Et même si on le savait, hein, et le passage avec la gamine où des fois tu te dis, bon, c'est aussi Nado qui se rebelle et compagnie, et en réalité, pas tant que ça. En fait, quand tu vois là, en fait, tu sais qu'elle est surtout dans la réaction face à un mec qui est constamment dans la violence et la provocation avec elle en fait.
Voilà, c'est ce que je dis. Là, c'est le point de vue de la gamine, alors que celui d'avant, c'était le point de vue du mec, donc c'est pour ça.
Pour le coup, la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, on la voit quasiment pas, alors qu'il y a toute une partie dans... Yasmine, il y a toute une partie dans Chained où on a l'impression que Abigail, justement, va passer plus de temps avec sa fille, justement, et là, pas du tout, et c'est dommage. Parce qu'à la fin, il y a une sorte de réconciliation de la mère et de la fille qui sort de un peu nulle part, mais ouais. Ouais, alors je sais plus qui dit ça, je crois que c'était Thierry. Mais peut-être que Chained, en fait, on le ressent. Enfin, on a l'impression que c'est moins violent parce qu'on est vraiment du point de vue du mec qui, lui, peut-être, se ressent pas aussi violent qu'il l'est. Et comme tu disais, Abigail le ressent plus violemment, donc le film. Enfin, les réactions de Rachid dans ce film-là nous paraissent plus violentes.
C'est une question de point de vue.
Il y a ça, peut-être.
Alors, du coup, il y a ça. Moi, je me tourne vers celle qui n'a pas vu le premier. Du coup, elle n'est pas influencée par le premier, sauf par ce qu'on vient de dire, évidemment. Mais bon, ça, voilà, hein. Que voulez-vous ? Donc, tu n'avais pas vu le premier, donc tu n'avais pas vu Chain, et tu as vu Beloved, et quel est ton point de vue ?
C'est typiquement le genre de film que j'évite en général. Trop immersif dans la réalité. J'arrive pas à... J'ai besoin d'un petit peu d'évasion, et c'est beaucoup trop réel. Et là, je me rends compte, en vous écoutant parler, et puis en écoutant le podcast de la dernière fois, en fait, je me rends compte de la différence qu'il peut y avoir, en fait, entre avoir vu donc un premier volet et ne pas l'avoir vu. Et je n'ai absolument pas ressenti le film comme vous.
Ah.
J'ai totalement une autre interprétation de ce film qui se raccroche un petit peu à mes origines. C'est-à-dire que je l'ai un petit peu mal vécu, ce film, parce que ça me rappelle énormément la manière dont la société fonctionne en Algérie. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit peu cette mainmise patriarcale qui est un petit peu une parole divine, et en même temps une solidarité féminine, mais qui tend pas vers l'émancipation, parce que cette réunion de femmes que vous percevez comme un gain de liberté, moi je l'ai perçue un petit peu comme, pour bien imager ça, je l'ai perçue un petit peu comme les réunions des femmes, les femmes qui se réunissent lorsque c'est le mariage d'une fille, et qu'elles sont toutes là un petit peu en tribu entre filles, et qu'elles sont là, on va t'apprendre en fait un petit peu, on va te montrer un petit peu comment ça va se passer, etc. C'est un petit peu sectaire. Pour moi.
Disons qu'elle arrête la procédure, la prise d'hormones pour faire un bébé avec son mec, et puis elle quitte son mec, quoi.
Oui, oui, oui. Je sais bien que c'est ce que raconte l'histoire, évidemment. Mais le problème, c'est que ça se rajoute en fait à beaucoup de choses. Et c'est une des paroles d'Abigail qui dit que je ne veux pas, c'est trop dur pour moi d'avoir un enfant, mais je veux le faire pour mon mari. Et on se retrouve aussi. On se retrouve aussi avec les relations conflictuelles qu'il y a entre les deux sœurs. Et on se retrouve aussi avec l'accouchement, ce qui sont des choses que moi, à titre individuel, je ne veux pas vivre. Je ne veux pas m'y confronter. Ce qui fait que de l'avoir vu comme ça, dans ce contexte-là, je me sentais mal, je me sentais vraiment pas bien. J'attendais que le film se termine pour sortir de la salle. Vraiment, je pouvais pas. C'était beaucoup trop pour moi. La scène de l'accouchement, moi j'ai fermé les yeux. C'était insupportable. C'était vraiment insupportable. Ce qui fait que je me rends compte en fait que le seul point de vue que j'ai, c'est ce film-là. Et pour moi, le comportement de Rachid n'est disons qu'il sort pas de l'ordinaire de ce qu'on attendrait de l'homme oriental, en fait. C'est-à-dire un petit peu patriarcal, un petit peu avec la main mise. Quoique je le trouve quand même, malgré ce qui a été fait dans le premier film, assez soft, c'est-à-dire assez à l'écoute, parce qu'il y a un dialogue, ce qui serait vraiment assez rare, en fait, dans ces sociétés-là, ça serait l'homme qui crierait, alors qu'il n'élève pas la voix, quand même. C'est quelque chose qui m'a marqué. C'est un film que je ne reverrai pas, et dont je n'irai pas voir la suite non plus. Ça m'a pas traumatisé, j'irai pas jusque-là, mais je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien.
Donc, on l'a compris, Rachid était soft, donc la solution c'était de ne pas élever la voix mais de rester ferme et d'enfermer à clé. Très bien. Bon, alors.
Pendant un an.
Minimum. 365 jours. Ah, 365 jours, oui, bien sûr. Pendant 365 jours, très bien, oui, Thierry. L'éducation par le cinéma, bien sûr. Bref, Beloved n'était pas la libération attendue. Non. Oui, Gab ?
Tu disais que t'avais envie de sortir de la salle, et moi je trouve que le film n'est pas assez long pour le coup. Ou alors qu'il aurait dû faire deux films différents entre les deux sœurs, et enfin justement un film sur les deux sœurs et un film sur Abigail. Alors que pourtant le premier film j'ai trouvé très long, donc je pense que celui-là j'ai quand même préféré. Mais ouais, je trouve que c'est à la fois très dense et en même temps il n'y a pas assez de choses. Voilà.
Non mais c'est intéressant que tu préfères celui-là alors qu'il est vraiment plus décousu et justement qu'il y a cette espèce de changement bizarre, d'alternance bizarre entre deux histoires. Mais moi en fait je suis en train même de me demander si au final, en fait il s'est rendu compte qu'il avait fait son premier film qui était entièrement centré sur Rachi, donc voilà, c'est donc ce qui est, on va dire, logique, mais que dans le deuxième il s'est dit je vais faire pareil, mais en fait il s'est rendu compte rapidement qu'il avait pas assez d'histoire avec juste Abigail en fait, et du coup il s'est dit bon bah je vais tourner ça à côté, on va parler des sœurs maintenant en fait, alors que ça pourrait être le troisième film en fait, vraiment pour le coup. Mais je pense qu'il a pas de contenu sur Abigail, ouais, ou qu'il l'a pas tourné, je sais pas, c'est très bizarre, on dirait vraiment ça, parce qu'au début c'est ça et d'un coup c'est bon, en fait on s'en fout.
Mais comme on le disait tout à l'heure, on ne sait pas ce qu'il y a dans le troisième.
Il a perdu son disque dur, peut-être.
Peut-être.
Parce que du coup, si le troisième film, c'est un peu pareil, on continue à voir les deux sœurs, mais d'un coup, ça coupe brutalement en disant « Bon, il y a des voisins qui étaient perdus quelque part là-bas, j'ai filmé deux, trois scènes avec, on les rajoute. » Ça va faire très bizarre. Enfin, on dirait vraiment qu'il avait trop de rush et qu'il a fait « Bon, il a joué au puzzle, mais il y a des caisses qui rentrent pas très très bien, quoi, où il a forcé. » Un petit peu, c'est ce que tu disais, il a forcé vraiment pour mettre des scènes en plus.
Mais pour le sujet du film, parce que celui-là, je trouve plus qu'il parle de l'émancipation générale de la femme. Et du coup, tout ce qui est dans le film marche pour ça. Donc c'est ça qui m'a pas gênée aussi. En fait, j'ai trouvé autant l'histoire intéressante des deux sœurs que celle d'Abigail.
Ou alors, c'est le point de vue des amis de la femme. En fait, ça pourrait, parce que le premier aurait été le point de vue du mari, le second, le point de vue des amis, qui ont leur vie aussi, donc qui ne voient pas tout. Et peut-être que le point de vue des voisins.
Ce qui manque avec ça, si ça avait été le point de vue des amis, c'est que peut-être si ça avait été jusqu'au bout et justement prendre le parti de questionner les amis sur est-ce qu'elles ont pu voir arriver ce qui se passe dans Chain du coup, mais ça n'y est pas non plus.
Et ouais. On ne tombe pas assez. Oui, on voit pas la fin de Chain du coup. Ce qui est assez perturbant, parce qu'on se dit c'est les deux faces de la médaille, en fait, non, pas complètement.
C'est ça, je suis d'accord avec Gab, pour le coup, c'est vrai que thématiquement, le film est très cohérent, au final, c'est vrai que là-dessus, je suis d'accord, même si on change d'histoire et qu'on oublie un peu Abigail, au final, les thèmes, enfin, tout ce qu'il veut développer, c'est plutôt intéressant, et ça tient tout du long avec l'émancipation, qui est vraiment au cœur de toutes les petites histoires qu'on voit. Mais c'est vraiment narrativement où je pense que c'est non. Enfin, c'est moi, ça me dérange vraiment pas mal. Enfin, c'est narrativement et à la fois sur la manière que le film a été vendu en fait. C'est vraiment comme disait Thierry, on est un peu floué finalement. Quoi. On nous dit vous allez voir. Enfin voilà, ouais, il y a pile et face. Sauf qu'en fait, il y a pile. Mais bon, la face, elle est un peu sale quoi. Tu vois, on voit que la moitié. C'est un peu dommage.
On a changé la pièce entre temps. Ouais,
c'est pile et tranche. Ouais,
mettrez-vous une pièce dans la machine. À vous de voir. On attendra le troisième en septembre. Ouais,
Dans trois mois.
L'équipe est au complet. Gab est toujours avec nous aussi. C'est l'heure des recos. Est-ce que vous avez vu quelque chose à côté ou des recos par rapport à ce qu'on a vu qui vous viennent en tête en cette fin de semaine, Marwan?
J'ai vu récemment au cinéma L'Exorciste de Friedkin. C'était juste incroyable. Et je ne l'avais pas vu, donc c'était vraiment une découverte. Vraiment explosive, par son talent. Et en même temps, c'était une reco. En ce moment, et probablement pendant toutes les vacances, on va avoir plein de films de toutes les époques, des grands films qui vont passer au cinéma. Et la meilleure façon de voir un film, c'est au cinéma. Et il faut en profiter, il faut y aller. C'est un peu cette transition du cinéma qui ne se passera pas tout le temps, sauf s'il y a plein de reconfinements. Et il faut y aller, il faut foncer, il faut voir des films comme voir par exemple L'Exorciste, qui est un film incroyable. Voilà.
Je suis pas spécialement d'accord. Je pense que la meilleure manière de voir un film, c'est même pas. C'est déjà, c'est chez moi. Mais sinon, c'est même pas sur un téléphone. C'est sur une iWatch. Voilà, tu vois, sans son.
Thierry, c'est le...
Sur un Nokia 3210.
Avec Véronique sans son ou sans le son.
Ta-da-da-da-da-da. Elle a fait un jeu de mots. C'est bon, je la prends dans l'équipe. C'est bon, elle est adoptée.
C'est bon. Ce n'est que la troisième fois que je viens. Moi, j'ai une reco.
Une reco de Gab, oui.
Allez voir Crash, les enfants. il est ressorti la semaine dernière.
Alors, un peu plus de détails, quand même.
Un peu plus de détails.
Crash 2.
Ah oui, Crash de David Cronenberg, est sorti en 1996.
Et qui raconte
allez voir de toute façon tous les films de Cronenberg, parce que c'est très très bien.
Sauf Dead Zone.
Et qui raconte l'histoire de gens qui aiment particulièrement les accidents de voiture.
Le sexe.
Et le sexe, oui.
C'est un bon résumé, ça me donne envie, c'est bon.
C'est vraiment ça le résumé du film, on peut pas faire plus résumé.
Ah. Et la BO est incroyable. Ouais, genre vraiment au cinéma, j'ai regardé, j'ai senti les premiers frissons avec la BO, parce que c'est sur ça que le film s'ouvre. Voilà.
Magnifique. Une reco parmi l'équipe, parmi ceux qui restent, hein. Ellie, oui.
Oui, c'est toujours. Hein.
Bonjour.
Ça c'est pas drôle. Ouais, je peux si tu veux. non mais.
L'émission est déjà assez longue.
Non, t'inquiète. J'ai avoir une seule reco, c'est donc je partage le message de Marwan d'ailleurs sur les cinémas et notamment le fait que bah pour ceux qui sont à Paris, il y a vraiment beaucoup de cinémas qui proposent énormément de bons films, Christine, Filmothèque, etc. Donc faut en profiter. Et d'ailleurs ressort cette semaine, donc mercredi 15 juillet, Voyage à deux de Stanley Donen, qui est un film extraordinaire avec Audrey Hepburn et Albert Finney, où en gros on suit la rencontre entre un homme et une femme, et ensuite leur mariage et leur vie de couple, en fait, tout simplement, et leur petite tribulation, leurs variations. Et c'est génial, c'est magnifique. Stanley Donen est un très grand cinéaste, il faut voir beaucoup de ses films. Et voilà, je peux que recommander ça. Vraiment, ça va faire beaucoup de bien aux gens, je pense. C'est un road movie merveilleux sur l'amour et comment il peut évoluer avec le temps.
C'est beau quand tu parles. Tout à l'heure, on a vu Exit, dont on a parlé, et ça m'a fait penser au film Tunnel de Kim Seong-un. Alors je sais pas si je le prononce bien, c'est un film de 2016, enfin, qui est sorti en 2017 chez nous. Pareil, sur l'histoire d'un mec qui est coincé dans un tunnel, qui s'est effondré. Mais ça se passe en Corée, et il y a une critique plus sur les gestions politiques, la gestion médiatique de ce genre de choses, en plus de la survie. C'est tiré d'un tunnel qui s'est vraiment effondré, parce qu'il y a eu des magouilles aussi sur la construction du tunnel. Je le trouve intéressant parce que, bon, certes, on est dans les clichés du film de survie dans un tunnel. Ok, très bien. Mais ensuite, il y a aussi toute une critique autour, il y a des recherches graphiques, il y a des idées. Alors certes, on n'est pas dans la sensation qu'on avait avec Exit tout à l'heure, mais dans le fond, on s'y retrouve mieux. Je trouve que ça va plus loin, ça raconte plus de choses, en fait. C'était pas compliqué, nous dit Ellie, très bien.
Non, mais c'est plus c'était plus une expérience que... Enfin, on a bien parlé du fond de Exit qui... peut-être le problème finalement, donc...
Oui, bon, et puis Tunnel, il fait 2 heures aussi, c'est vrai qu'il est... Alors, c'est son défaut, il est peut-être un poil long par moment. Bon, voilà.
Mais Tunnel, c'est censé être long, donc...
Vas-y, un huis clos. Parce qu'on parle de huis clos, alors ça n'a pas tant de rapport avec un effondrement ou un film catastrophe, mais moi, il y avait un huis clos qui m'avait bien marqué au cinéma, j'y ai repensé dernièrement, c'est Locke. Et ce film, tout le monde l'a un peu oublié, c'est avec Tom Hardy, et en gros, le film, c'est Tom Hardy dans une voiture qui téléphone. C'est quasiment un plan fixe. Il est chef de chantier sur des... je crois que c'est chef de chantier, sur des trucs assez complexes. Et c'est une nuit où ils doivent beaucoup travailler. Et en gros, il a une femme qui l'appelle, ou l'hôpital justement, avec qui... Enfin, une nana avec qui il a trompé sa femme. Un jour, il a fait une connerie. Voilà, c'est la seule fois où il a fait cette connerie-là, qui l'appelle pour lui dire qu'elle est enceinte. Et il décide de se casser, en fait, et prendre sa voiture. Et donc, c'est un gars qui va, en fait, en une nuit et un trajet de voiture, devoir gérer son chantier à distance avec les gars qui sont pas habilités à faire les mêmes choses et vont se mettre en danger. Appeler sa femme pour lui annoncer ce qu'il a fait, parce que vu qu'il est un enfant abandonné par ses parents, il décide non pas de partir avec la nana avec qui il a trompé, mais au moins d'assumer l'enfant. Donc il doit annoncer à son femme qui lui a fait un enfant à sa femme qui lui a fait un enfant dans le dos et qui va l'assumer quoi qu'il arrive et qui veut pas perdre son couple pour autant. Il doit annoncer à l'autre nana qu'il va venir reconnaître le gosse, mais par contre il voudra pas d'elle.
Et donc tout va se gérer par des conversations téléphoniques et Tom Hardy tout seul dans sa voiture. C'est vachement bien, voilà. Vous voyez Locke.
Très bien vendu, hein. Si je l'avais... Enfin, c'est longtemps que je connais ce film de nom, mais j'ai jamais regardé et j'ai envie de le voir d'un coup, là.
Bon. C'est la magie, baby.
C'était Certain les Machos. Nous vous avons parlé aujourd'hui du sel des larmes, l'aventure des marguerites, Divorce Club. Ouh, ouh, ouh. Là, c'est les trois d'un coup, là.
Moi, t'es pas content, là. C'est...
Felicita. Alors là, j'ai le sourire aux lèvres, là, quand même, Felicita, ça va. Exit et Beloved.
Non, je disais juste qu'on l'attendait, tu vois, le Beloved.
Oh oui. Et il y avait tellement de sorties, il y avait aussi été 85, mais on en a parlé la fois d'avant. Donc.
Ça n'empêche pas que n'oubliez pas d'aller le voir. Hein.
Si vous ne l'avez pas vu. Merci à toute l'équipe. Merci à Gab du podcast de 4 à 7 de nous avoir rendu visite une fois de plus. Merci à toi.
Ben, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir.
Toujours de 4 à 7 sur les BO de films.
Oui, en une semaine, ça n'a pas changé.
Deux, on ne sait jamais, c'est l'été, ça bouge tellement vite, tu sais, voilà.
Ça n'a pas changé.
Merci Yassa.
Merci Thomas.
Merci Marwan.
Merci Thomas.
Non mais parce que j'étais en mode 4, un coup il y avait Eli, un coup il y avait Marwan, on alternait cette semaine, donc c'est pour ça que j'ai eu un temps de... Faut pas l'appeler Eli, qui est cette personne. Voilà.
C'est lui Eli,
c'est bon. Et Thierry.
Oui, bonjour.
Merci à toute l'équipe et merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Retrouvez cette émission ainsi que toutes les autres sur toutes les bonnes applications de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode ni les suivants. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @claacpodcast, C-L-A-A-C podcast. À la semaine prochaine pour de nouveaux films. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
Est-ce que quelqu'un a regardé ce qu'il y avait la semaine prochaine? Non. Ah si, il y a...
Ip Man.
Ouais, la semaine prochaine, il va y avoir du Kung Fu. Ça va tabasser la semaine prochaine.
Je vais pas aller voir ça, moi.
Toi, tu vas voir des films espagnols.
J'ai pas vu les trois autres.
Tu vas voir des films espagnols avec Eli, toi.
C'est clair. La semaine prochaine, il y aura Madrid sans Rogoyen, qui risque d'être absolument fantastique. Sauf qu'on va le voir ce soir et on va faire la pastille à deux parce qu'on vous aime pas.
Et nous, on ira le voir jeudi sans vous. Et
vous ferez une pastille aussi.
Contre-pastille.
Une contre-pastille et je garderai la meilleure, c'est-à-dire la mienne.
Directeur, ce que tu fais mal, quoi.